Chômage au fond de la vallée, c'est là la vraie fatalité. Voici quand la nuit étoilée, un sans-emploi nous est donné. Séraphin de droit, il se nomme, il est encadré et respecté. Aujourd'hui, pauvre petit homme, voilà que tu es licencié.
Alors déjà, nombreux, vous êtes sur la page Facebook. Enfin, quand je dis nombreux, vous êtes 13. Je patiente en écoutant Guy Béard. 15 minutes environ avant le lancement. Allez Jean-Claude, tu pourrais mettre un nounours sur une chaise, enfin sur la chaise. Mais le nounours, il est à côté, là, il n'est pas encore dans le studio. Tout à l'heure, il y avait une demoiselle. Pourquoi elle est partie? Ouin.
Chômage au fond de la vallée, peu de familles sont épargnées. Voilà qu'après 19 années, le séraphin est remercié. Qu'arrive-t-il à quel marasme?
Mine de rien, j'ai programmé ça, mais ça colle vachement bien avec l'actualité.
Comme un cri d'amour perdu, et l'assistante sociale ne pourra rien y changer. Séraphin est au plus mal par la banque locale avec un grand pistolet.
Non, ce ne sont pas les compagnons de la chanson, c'est le groupe Chanson Plus Bifluoré. Monsieur Philippe David est invité à prendre place sur le siège. Oui, parce qu'il pense que tu n'es pas là.
Il est encadré et respecté. Aujourd'hui, pauvre petit homme, les policiers l'ont arrêté.
C'est chaque jour à midi que se rassemblent les hommes pour un repas entre amis. C'est rapaille tout sourire, plus besoin de R&B. À l'atelier on l'admire, on assure son avenir à la prison de Fleury.
À la prison de Fleury.
D'Apriest, Nostradamus. Alors, comment s'appelle-t-elle? Mélania me signe. Oui, mais Mélane me signale coupure de pub. Et oui, nous sommes sur un système américain qui s'appelle Ustream, sûrement que Philippe David connaît. Et Ustream, c'est pas gratos. Alors, si vous le prenez gratuitement, voilà, il est mis à disposition par les Américains. C'est d'actualité en plus aujourd'hui. Hein. Il y a des coupures de pub. Par contre, si vous payez $99 par semaine, non, par mois, n'y a pas de pub. Mais 99 dollars, ça fait de la thune, hein. Et avec les restrictions budgétaires en ce moment. Donc pendant ces deux heures, ces deux premières heures, le programme sera interrompu par de la publicité. Mais vous avez la même chose à la télévision, vous avez aussi de la pub. Faut bien qu'ils vivent, ces gens-là. Donc voilà, c'est annoncé, il y aura de la pub, des coupures de pub. Et Michel, de préciser, Jean-Claude, donne-lui un verre à boire à Philippe. C'est en cours. Alors Michel, puisque apparemment tu ne sembles pas connaître Ustream, c'est un fournisseur d'images et de sons qui va sur un moteur de recherche à ton choix. Tu tapes Ustream et tu verras que, et tu entendras que. Trois minutes. You qui dit s'il y a de la pub, je vais aller pouvoir pisser la prostate. Non mais justement, j'ai démarré un peu en avance parce qu'au fur et à mesure que le programme passera, il y aura de moins en moins de publicité. Je devrais pas le dire ça pour la concurrence, hein. Deux minutes, histoire de faire monter le stress. Merci mon Grégoire, sans toi je ne serais pas grand chose. La voix, elle est ok, la musique est ok. Enfin bon, la musique, hein, tout le monde n'aime pas, je suis d'Apriest. Hein. Moi j'aime bien. Hein. Moi Guy Béard, ça va la musique, comme disait Charles Aznavour en 1982, à la Lograin, c'est un nom sûrement qui doit dire quelque chose à Philippe David. Quand je lui ai posé la question, mais la musique, quelle musique aimez-vous? Il m'avait répondu la bonne, et j'aime pas la mauvaise. C'est pas con comme réponse, hein. Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro.
Atmosphère, atmosphère, est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? créé par l'homme, pour l'homme, né de l'imaginaire pour nourrir vos fantasmes. Voici.
Vous regardez trois télévisions, bonsoir.
Et vous ne regardez pas assez la radio. Première de Plus près des étoiles sur Radio Étoile du Cœur. Jusqu'à 19h en direct, en live comme ils disent maintenant, avec le son et avec l'image. Plus près des étoiles avec Philippe David.
Aïe, 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 la vie est belle. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la musique ? Messieurs, s'il vous plaît. Ah là là, alors attention, hein.
Aïe, 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 la vie est belle. Tout va vraiment très très mal, ma veste. Mais je m'en fiche, moi dimanche, je vais voir le match de football. Allez. Je suis agriculteur, tous les jours je vais traire les vaches. Et 5 jours par semaine, je n'ai pas le cœur à la tâche. Ce que je voudrais, ce n'est pas pouvoir me lever tard. C'est qu'au lieu de donner du lait, mes vaches donnent du pinard. Je chante un peu partout, de l'Asie jusqu'en Amérique. Les gens me disent bravo, vive la France, c'est magnifique. Mon ami étranger m'a tout expliqué, c'est normal. Avec mon gros nez, ils me prennent pour le général. La pilule, je trouve que ceux qui râlent sont plutôt ridicules. Moi, ma cousine aurait plutôt trouvé la solution. Chaque fois qu'elle a un gosse, elle l'envoie au Vatican. Moi, j'aime bien le football et je connais tous les champions. Je passe tous mes dimanches devant la télévision. Je suis pour Ajaccio et ça sera vraiment fantastique. Le jour où les Corses gagneront les Jeux Olympiques. La vie est belle. Attention. Aïe, 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 la vie est belle. Tout va vraiment très très mal. Mais je m'en fiche, moi dimanche, je vais voir le match de football.
Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir, si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre, si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesti par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même, d'un seul mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, alors, sans chacun qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître. Penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage. Si tu peux être brave et jamais imprudent. Si tu sais être bon, si tu sais être sage. Sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres la perdront. Alors, les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Ah, je suis content de te voir.
Moi aussi.
Tu es arrivé bien en avance.
Pour une fois, ça roulait pas trop mal à Paris, donc ça relève du miracle.
Et tu as trouvé une place.
Juste en face, alors là je pouvais pas demander mieux. C'est un bon signe avant de commencer.
Tu te souviens comment nous nous sommes rencontrés, Philippe ?
Nous sommes rencontrés absolument il y a quelques mois par un réseau social qui s'appelle Facebook, on peut le citer. Hein.
Uh-huh. Et, j'ai demandé de la thune à Marc. Hein.
Oui.
Surtout qu'il en a. Hein.
Oui. Beaucoup, même si depuis que Facebook est en bourse, ça a pas mal chuté. Et on s'est connus donc par Facebook et on a échangé pas mal de choses et on a vu qu'on avait pas mal d'atomes crochus et les choses se sont faites ainsi.
Tu as le souvenir exact du moment T ?
Du moment T, je sais plus exactement. Je pense que j'avais vu un de mes amis qui avait commenté un de tes articles, un truc comme ça que j'avais bien aimé. J'avais mis j'aime, on avait échangé en chat. Ah. Oui, on va dire en chat, c'est en anglais,
chat,
mais
oui.
c'est pas très français. Et le courant, on va dire, était bien passé. Et on s'était mis donc amis Facebook. Et après, on a eu une opportunité de se connaître un peu plus quand t'as eu un petit souci avec ce réseau social. On va dire ça comme ça.
C'est important de le savoir quand même. Hein. Mais c'est vrai que on va pas parler de calomnie. On va pas parler de. En écoutant ce poème de Kipling, ça t'inspire quoi ? Tu le connais, bien sûr.
Bien sûr, j'adore ce poème de Kipling qui est magnifique. Tu seras un homme, mon fils. Je crois que c'est le titre. Il est très beau et je pense que malheureusement, il est assez en contradiction avec les valeurs avec lesquelles on vit aujourd'hui. Parce que si tu peux rester digne en étant populaire, tu peux rester peuple en conseillant les rois. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est avant tout une société du paraître et de la communication, avant d'être une société vraie. Et une société de vérité. Aujourd'hui, tout se fait par le biais de la communication, du paraître. Et je pense que c'est peut-être pour ça que notre société va si mal, parce qu'elle a de moins en moins de valeurs vraies, de vraies valeurs, et de plus en plus de fausses valeurs.
Mais qu'est-ce que la vérité, Philippe ?
Alors la vérité, ça peut être purement objectif. Par exemple, si je dis que, je sais pas moi, Toulouse est plus loin de Paris qu'Orléans, c'est une vérité qui est facilement vérifiable. Surtout quand on fait la route de Paris à Toulouse, on arrive avant, bien avant à Orléans. Par contre, si je dis que telle méthode va faire baisser la fièvre, ben ça peut être vrai sur une personne en prenant tel médicament à tel dosage et pas vrai sur une autre. Il y a des vérités objectives et il y a des vérités subjectives. Je crois que dans les sciences humaines, il y a beaucoup dans les sciences réelles, dans les sciences naturelles, dans les sciences physiques, il y a que des vérités réel. Dans les sciences humaines, il y a beaucoup de vérités, on va dire, à géométrie variable.
Tu as les jetons un peu ou pas ? Non ?
Un petit peu, je suis un peu tendu, c'est pour ça, c'est pas évident.
Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure hors antenne. Hein.
Je suis le premier, c'est pour ça
mais
que je suis un peu contracté.
Mais,
oui.
mais moi aussi. Parce qu'on nous attend au tournant, et toi, et surtout moi, mais bon.
Ouais.
Mais moi, je me souviens exactement du moment T. J'avais appris que tu étais commentateur sportif. Sur Atlantico.
Absolument.
Un site internet que je croyais tout acquis à Sarkozy. Mais parce que la politique t'intéresse bigrement, Philippe David.
Oui, j'ai écrit 3 bouquins de politique, mais j'adore aussi le sport. Alors, je suis rédacteur depuis avril 2011 sur Atlantico. Bon, par ma formation, etc., j'ai une formation internationale. Donc, je commente assez régulièrement l'économie et la politique sur Atlantico. Mais comme je suis un grand passionné de sport en général, de foot et de rugby en particulier, et que mes articles ont plutôt bien marché sur Atlantico quand on parlait de football. J'ai écrit énormément d'articles sur le football, notamment lors du dernier championnat d'Europe qui s'est disputé en Ukraine et en Pologne, où j'écrivais pratiquement tous les jours pour faire les comptes rendus des matchs, comment on analysait, qu'est-ce qui allait pas, qui étaient les favoris, etc. Et t'as certainement lu un de mes articles qui parlait soit d'un Allemagne-Pays-Bas ou d'un France-Ukraine, ou enfin on se connaissait avant l'Euro.
Non, ce qui m'a attiré vers toi, Philippe David, c'est que il y avait un match un soir, je me souviens plus, ça devait être au mois de juillet, au mois de juin, et tu as eu un mot très, très tendre pour ton père.
Oui, c'était le premier, oui, ah oui, d'accord, je m'en rappelle, c'était donc le match d'ouverture.
T'as vu le vieux, hein, encore le cerveau qui font
très bon hein. Souvenir, oui, exact, oui, c'était avant le match d'ouverture, c'était France-Angleterre, qui se jouait donc en Ukraine. Et j'avais mis un mot sur les réseaux sociaux parce que j'étais très proche de mon père, et c'est la première fois que je voyais un match de grande compétition sans pouvoir, parce qu'il était parti entre-temps malheureusement, sans pouvoir commenter avec lui à la mi-temps et à la fin du match le match. Et je sais pas, j'ai juste mis ça comme ça, et j'avais su dont de ta part t'avais été un des tout premiers à commenter, beaucoup de messages de sympathie qui m'avaient beaucoup touché. Et quelque part, bah ça. Ça m'a fait chaud au cœur, et je me suis dit que finalement, par le biais de ces réseaux sociaux, on pouvait rencontrer des gens qui méritaient vraiment d'être connus, qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vie, parce que l'un à Toulouse, l'autre à Paris, le troisième à Strasbourg, le quatrième à Bayonne, c'est pas évident de se rencontrer. Et je dois dire que grâce à ce réseau social, j'ai rencontré pas mal de gens en vrai, et quand on a échangé pendant un certain temps, on se rend compte qu'on a d'office des atomes crochus, sinon on n'échangerait pas plus longtemps, soit on laisserait tomber, soit les gens commenteraient pas, etc. Et je dois dire que ça m'avait beaucoup touché, et tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à les rencontrer. Avec certains, je suis même devenu, plus spécialement ceux qui sont sur Toulouse, parce qu'on peut se voir régulièrement, on peut devenir vraiment amis dans la vie.
Je t'ai mis un commentaire très court en te disant, mais Philippe, ton père écoute.
Ah oui, oui. Ah mais ça, j'en étais convaincu. Mais d'ailleurs, quand j'ai fait le débrief, j'ai fait le débrief du match. En général, je commençais à écrire parce que l'Atlantico, il fallait que j'envoie les résumés de match assez vite. En général, à la mi-temps, en me prenant un petit café ou une boisson, parce que quand je regarde le match comme ça, je prends des notes sur ordinateur, je dis n'importe quoi. 14e minute, très bon arrêt du gardien sur une frappe de Vintel, etc.
J'ai suivi ça.
Donc à la mi-temps, j'ai mon débrief avec les. Surtout avec l'équipe de France, malheureusement, par les temps qui courent, même si je joue ce soir, il n'y a pas beaucoup d'occasions par match. Je faisais mon débrief de la mi-temps, et en deuxième mi-temps, je faisais la même chose. Donc, ce qui fait qu'en, allez, trois quarts d'heure après la fin du match, j'avais mon article complet qui était prêt.
Non, brave monsieur, avec tout ce qui se passe dans le sport, avec le dopage, le fric, les trucs, les machins, comment peut-on encore aimer un club sportif? Quel est ton club favori?
Ah ben moi, mon club favori, c'est Toulouse. Le Toulouse Football Club, ah, bien sûr. Et mon club de cœur de rugby, c'est le Stade Toulousain. C'est logique, comme je viens de Toulouse. Et non, j'aime beaucoup le Stade Toulousain. Bon, le TFC, on fait un début de saison pas mauvais. Le Stade Toulousain, c'est le club référence du rugby français. Ça, je crois que personne peut dire le contraire. J'ai eu quelques potes qui ont porté le maillot du Stade Toulousain, d'ailleurs. Et non, c'est des clubs. Alors c'est sûr que le sport aujourd'hui a un gros problème. J'avais fait un article qui avait très bien marché sur Atlantico quand un joueur brésilien mythique était décédé, qui s'appelait Socrates, et j'avais appelé l'article Socrates, ce footballeur qui n'était pas pourri par le fric. Parce que Socrates, c'était un joueur extraordinaire, c'était un type qui était footballeur professionnel, qui jouait en équipe du Brésil en faisant ses études de médecine et qui a fini pédiatre. Et qui faisait volontairement pédiatre dans les favelas pour aller aider les gens pauvres. Et à l'époque où c'était un régime militaire au Brésil, donc de 64 à 84, il avait lancé dans son club, qui était de mémoire le Corinthians Paulista, le Corinthians de Sao Paulo, la démocratie pauliste. Il y avait eu un très très bon reportage dessus sur Arte il y a 2-3 mois à peu près, au moment de l'Euro, il me semble, ça devait être en juin-juillet, où il montrait justement la vie de Socrates. Et Socrates était un type qui avait eu le courage de faire porter sur le maillot des joueurs de son équipe le mot démocratie, alors que le Brésil était une dictature.
Socrates qui, contrairement à Diogène, n'est pas du tout cynique.
Absolument. Et c'était pas Socrates, ça se prononçait bien Socrates et pas Socrate.
Qui cherche encore des hommes.
Et qui cherche encore des hommes. Ouais. Et cet article avait tellement bien marché qu'il avait été, y compris, beaucoup repris en direct d'Atlantico par les sites d'Afrique francophone, etc. Il a même été traduit, il me semble, en portugais par un site au Brésil. Ce que j'aime beaucoup dans le football, moi c'est mon père qui m'a donné le virus du football, puisqu'il était vice-président d'un club qui était à l'époque en CFA. mais qui malheureusement est descendu de deux divisions en 3 ans, ou en 2 ans même, qui s'appelle le Football Club Les Lilas. S'il y a des gens du FC Lilas qui nous regardent, je sais qu'ils connaissent ce club.
C'est bien d'avoir fait la remarque. Qui nous regarde.
Oui, parce qu'ils nous regardent. Oui.
Vous ne regardez pas suffisamment la radio.
Exactement.
Très bien, Philippe.
Et Socrates était un joueur exceptionnel, parce que le football, c'est pas juste un sport, c'est un phénomène social. Moi, j'ai pas mal voyagé dans ma vie, et je me rappelle, il y a quelques années, je m'étais perdu, j'étais à Lisbonne, dans un bidonville, parce qu'il y a encore des bidonvilles, malheureusement, à certains endroits au Portugal, j'étais pas loin de l'aéroport de Lisbonne, de Portela, et je me suis paumé dans un bidonville, et j'ai vu des gosses qui jouaient, qui vivaient dans des cabanes en tôle et qui jouaient au football. Et à l'époque, la grande vedette du Brésil, c'était Luis Figo, et je me disais, mais un gosse qui naît là-dedans, qu'est-ce qu'il a comme espoir, à part de devenir Luis Figo, ou aujourd'hui Cristiano Ronaldo, pour le qui est né dans un milieu pauvre, mais aux Açores. Et quand on prend des pays comme le Brésil ou l'Argentine, c'est le football, c'est l'espoir d'ascension sociale numéro un dans ces pays-là.
Comme dans d'autres pays, ceux qui descendent dans les arènes,
oui.
Il n'y a peut-être pas d'autre moyen que de gagner sa vie.
Ah mais c'est clair, ou dans des pays comme les pays d'Asie du Sud-Est, devenir un champion de boxe thaï en Thaïlande, etc. Parce que le sport pour moi est un vecteur de...
Je me souviens avoir rencontré il y a très très longtemps Manuel Benitez, El Cordobés, c'était très très longtemps, c'était un 15 août.
Oui.
Avec Jacques Brel.
Ah oui.
À Dax, dans les arènes de Dax. Et j'avais vu pour la première, ça a été la seule une fois où j'ai vu une corrida. Et j'avais déjà des questions à poser, même si j'étais encore, si j'étais toujours môme. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous a poussé, il y avait un traducteur à côté de moi, qu'est-ce qui vous a poussé, il m'a dit, tu sais ce que c'est que d'avoir faim, mon gars? Enfin, quelque chose comme ça,
oui.
Et là, t'as rien à dire, quoi.
Ah, c'est sûr.
Bien sûr que les corridas, c'est horrible.
Ah oui, moi je suis pas fan des corridas en ce qui me concerne.
L'excision, c'est aussi horrible.
Oui, mais par contre, à l'époque, l'Espagne était un pays pauvre. Maintenant, l'Espagne, j'y vais beaucoup, j'y vais régulièrement, est un pays qui est en plein marasme. Mais c'est un merveilleux vecteur d'ascension sociale. Alors, pour revenir sur les problèmes de dopage et d'argent, c'est sûr qu'aujourd'hui, alors, tous les sports n'ont pas la même quantité d'argent. Le tir à l'arc, c'est pas un sport médiatique, il n'y a pas d'argent. L'escrime, il y a très peu d'argent. C'est sûr que quand on voit l'argent dans le football, c'est quelque chose d'énorme. Quand on voit que des gens touchent des salaires à plus d'un million d'euros par mois, c'est colossal. Même un cadre moyen ne les gagne certainement pas dans une vie, j'ai jamais fait le calcul, mais c'est des sommes énormes. Et qui dit beaucoup d'argent, dit qu'il y a tout de suite beaucoup plus de risques de corruption. On a vu quand même qu'en Italie, on est au 3e scandale de matchs achetés sur les 30 dernières années. Il y avait eu le Toto Calcio en les années 80 avec Paolo Rossi qui avait été suspendu avant de gagner la Coupe du Monde parce que les matchs étaient achetés. Il y avait eu le Calciopoli en 2006 où on avait des écoutes téléphoniques qui avaient prouvé que la Juventus achetait des matchs, achetait les arbitres, achetait les joueurs adverses, etc. Qui avait valu au club turinois d'être rétrogradé en deuxième division. Et là, il y a eu le Calcio Scommesse qui a eu lieu l'année dernière, où il y a encore des enquêtes, où des joueurs ont été exclus de l'équipe d'Italie parce qu'il a été prouvé qu'ils avaient été achetés, que des matchs avaient été truqués par des mafias qui, en Extrême-Orient, jouaient des sommes colossales sur des matchs, donc il fallait acheter les joueurs pour être sûr. Et c'est sûr que ça pose un vrai problème, et qu'il faut un vrai problème. Il y a besoin quand même d'un minimum de régulation, parce que pour moi, le sport, c'est un idéal. C'est que le meilleur gagne. Mmh. Alors, même si dans un sport comme le rugby, le meilleur gagne pratiquement tout le temps. Parce qu'en rugby, le meilleur finit toujours par marquer.
Mais j'ai le sentiment que le dopage, c'est une affaire qui est tout à fait nouvelle.
Non. Le dopage est généralisé dans le sport. Mais on a une certaine pudeur dans certains sports. Alors, le dopage dans le Tour de France, c'est pas nouveau. Mmh. Eddy Merckx, c'est pas d'aujourd'hui. Il avait été piqué positif plusieurs fois. Enfin, piqué positif, j'ai pas fait exprès de faire ce jeu de mots. Il avait été pris positif au contrôle antidopage plusieurs fois. Et Eddy Merckx a gagné 5 Tours de France.
Ouais.
Ça explique peut-être pourquoi il a tant soutenu Armstrong il y a quelques jours quand Armstrong a été menacé de perdre ses 7 Tours de France. Entre-temps, il y a eu l'affaire Festina, qui a été le révélateur quand même.
Parlez-moi du temps de Robic.
Alors,
Du temps de Jean Bobet.
À l'époque de Bobet, Robic, etc., il y avait une expression chez les cyclistes, quand un type avait explosé les compteurs et que tout le monde pensait qu'il avait fait ce qu'il fallait pour gagner, on va dire ça comme ça, on disait, il a salé la soupe. Et c'est le terme qu'utilisaient les cyclistes. Le dopage, dans tous les sports, il existe. Au tennis, c'est très simple. Il n'y a jamais de personne prise positive au dopage. Jamais. Bon, par contre, il y a souvent des joueurs blessés pour des longues durées. Pourquoi ? Parce qu'au tennis, on ne veut pas qu'il y ait de dopage. Donc, quand quelqu'un est pris positif, on lui dit, écoute, t'es blessé pendant 3 mois, 6 mois, 2 mois. Donc, comme ça, tu joues plus. Officiellement, il n'y a pas de dopage. Mais comme ça, tu gagnes pas d'argent.
Tu as eu l'occasion d'interviewer des sportifs de haut niveau pour... Non. Vous êtes vraiment obligé de prendre toutes ces saloperies?
Non, jamais. J'ai rencontré quelques sportifs de haut niveau. J'ai
mais même des potes. C'est pour l'argent, c'est pour la gloire, c'est pour l'ego, c'est...
C'est parfois pour tenir le coup, vu les rythmes qu'on leur demande.
Uh-huh.
C'est parfois, j'ai...
Oui, parce que c'est bien de jeter toujours la pierre aux sportifs. Non, je... le salaud, vous... Non, mais faut peut-être comprendre le contexte de leur vie aussi.
Je crois que t'as des origines des Pyrénées.
C'est ariégeois, monsieur.
Ouais. Qui connaît bien les Pyrénées, j'ai des origines des Pyrénées. Quand on voit les types qui s'avalent le lundi, l'aubisque, le soulor, le tourmalette, et que le lendemain on leur dit il faut refaire le tourmalette, l'aspin, arriver au plat d'Adé ou à Lussardidène, les types c'est pas des machines. C'est pas des machines. Donc si on leur mettait des épreuves qui tenaient la route, on serait pas obligé d'en arriver là.
Idem pour le football?
Mais bien sûr. Mais quand on fait jouer...
Idem pour la boxe?
Pour la boxe, quand on voit les coups que se prennent les types, c'est énorme. Et faut voir le temps de récupération.
Mais il y a de la demande.
Bien sûr.
De la part du public.
Mais bien sûr.
De moi.
Mais aujourd'hui, si on fait un Tour de France ou dans les plus grosses étapes de montagne, on passe que deux cols, tout le monde va dire que c'est pas un Tour de France. Mais faut voir les conséquences que ça crée. J'ai un de mes potes qui était un rugbyman très connu, qui jouait dans des clubs très connus. C'était un très grand rugbyman. Et il a pris sa retraite récemment, et je lui disais, mais comment ça se passe là, tu joues plus trop? Il me dit, mais Philippe, à mon âge, entre deux matchs, je ne peux plus récupérer. Il dit, je peux plus récupérer, en une semaine, je récupère plus, parce qu'il faut voir les rugbymen, je vais voir régulièrement le Stade Toulousain, les tampons qu'ils se prennent sur le terrain, quand on se prend un plaquage d'un pilier ou d'un deuxième ligne, c'est profondément traumatique pour les muscles, pour les os, pour tout le corps.
Question Philippe, David, y a-t-il possibilité de moraliser le sport?
Alors, un sport propre à 100%.
Parce qu'à force d'entendre, oui, ça va s'arranger. Il me semble que nous sommes de moins en moins gogo, hein. Qu'on est en train de grandir en ce moment-là.
On est de moins en moins gogo, mais on aime toujours avoir notre dose d'exploits, de performance, d'émerveillement.
Ouais.
J'ai écrit une tribune il y a quelque temps sur les Jeux Olympiques, qui n'était pas sur Atlantico, qui a fait couler pas mal d'encre, où j'ai parlé des performances aux Jeux Olympiques qui me paraissaient surréalistes. Je prenais par exemple les records. J'étais à Berlin il y a 3 semaines. J'étais en vacances là-bas pour visiter la ville. J'ai visité le musée de l'ex-RDA. Il y a le musée de DDR Museum. Le musée de l'ex-RDA où il y a carrément les tablettes de produits dopants que prenaient les athlètes de l'ex-RDA. Quand j'ai vu le record du 4x100 mètres féminin qui était détenu depuis 85 par les Est-Allemandes, qui étaient toutes dopé à bloc, être explosé par les sprinteuses américaines, je me suis franchement posé des questions. Parce que si des filles dopées à mort voient leur record exploser par des filles qui tournent à l'eau claire, pourquoi alors se doper? Autant tourner à l'eau claire, c'est plus efficace. Et quand j'ai vu la Jamaïque, dont d'ailleurs Blake a déjà été piqué positif à l'antidopage, la médaille d'argent du 100 mètres et du 200 mètres, un pays de 2,8 millions d'habitants, humilié, il n'y a pas d'autre mot, en prenant première, deuxième, troisième place aux 200 mètres, 7 milliards d'êtres humains en raflant toutes les médailles, je suis peut-être médisant, j'ai pas dit qu'ils étaient dopés, mais j'ai franchement du mal à croire qu'un pays de 2,8 millions d'habitants, même s'il a les meilleures méthodes d'entraînement possibles, même s'il a les meilleurs entraîneurs possibles, même s'il a les meilleurs athlètes génétiquement, parce que les gènes, ça joue énormément dans le sport possible, j'ai du mal à croire que les Jeux Olympiques aient pu être propres dans ce domaine.
Penses-tu que le public soit responsable?
Ah ben c'est...
Aussi parce que... coupable, non. Les coupables, ce sont ceux qui se shootent.
Jules César...
Est-ce que nous sommes aussi responsables?
Jules César disait « Panem et Cherchenses ».
Oui.
Du pain et des jeux.
Mais il paraît que c'est pas lui, ça a été repris.
Ah ben c'est bon. Ça a été beaucoup repris depuis.
Tu y étais pas.
Non, Jules César, j'étais pas né.
Oui.
Non, je suis né juste après sous Clovis.
Ouais.
Non.
Ah, c'est toi qui as cassé le vase de...
Soissons, exactement.
Ah, d'accord.
Non, le truc, c'est que du pain et des jeux, les gens veulent toujours plus.
Uh-huh.
Et faut pas se tromper. Un jour, les records seront imbattables. On va pas courir le 100 mètres en 3 secondes. On va pas courir le 100 mètres en 3 secondes.
Tu t'es un petit peu pas occupé des Jeux paralympiques, là, il en était.
J'ai écrit plusieurs articles sur Atlantico en disant que je trouvais scandaleux que la télévision publique ne passe pas plus des Jeux paralympiques. En plus, les Français ont eu de très très belles performances. Là, j'ai vu qu'on avait eu une athlète Asia, j'ai oublié son nom de famille, qui a refait deux médailles d'or après en avoir gagné à Athènes et après en avoir gagné à Pékin. Et je trouve que des athlètes comme ça sont des athlètes merveilleux. Il n'y a pas que Usain Bolt.
C'est vrai qu'on a été nombreux à gueuler sur Facebook.
On a été très nombreux à gueuler. On a été très très nombreux à gueuler.
Je crois que la direction de France 2 a...
Ils ont fait un petit effort.
Un petit effort, ouais. Mais là aussi, j'ai lu un article sur Atlantico d'un de tes confrères, de tes collègues, qui écrit, même dans les Jeux paralympiques, il y a aussi de la drogue, il y a aussi du dopage.
Oui, a priori.
Il y a aussi des mutilations volontaires.
Oui, a priori. Oui.
Mais les médias n'en parlent pas de ça.
Non, parce que ça intéresse pas les médias. Mais on en parlait tout à l'heure. Le tir à l'arc, c'est un sport olympique. Mais est-ce que c'est un sport médiatique?
Oui, mais enfin, Guillaume Tell, on parle de lui encore.
Oui. Mais est-ce qu'on voit une fois à la télé des compétitions de tir à l'arc? Quand il y a les championnats du monde, sauf quand c'est un Français champion du monde, on va nous dire au journal à la radio, tiens, le Français Dupont a été champion du monde de tir à l'arc cet après-midi à Sydney. Mais point barre, c'est pas des sports médiatiques. Les vrais sports médiatiques en France, il y a évidemment le football, parce que c'est le sport numéro un dans le monde. Il y a le rugby, parce que le rugby, même si c'est avant tout le sport du Sud-Ouest, c'est un sport qui maintenant est populaire dans toute la France. Mais au niveau des clubs du top 14, 80% sont dans le Sud-Ouest. Il y a le cyclisme, à cause du Tour de France, même si je pense qu'avec l'affaire Armstrong et tout ce qui risque de sortir depuis, le Tour risque de prendre encore une grande gifle. Parce que vu ce qu'on lit depuis la sortie de l'USADA, l'agence antidopage américaine, c'est absolument apocalyptique et accablant pour les autorités antidopage, tant de l'UCI que du Tour de France.
Mais Philippe, c'était le secret de Polichinelle.
Mais c'était le secret de Polichinelle.
Tous les journalistes sont au courant.
Mais bien sûr que.
Un peu comme Mitterrand, tous les journalistes savaient
qu'il était malade,
oui.
Et mais qu'il avait une fille cachée.
Qu'il avait une fille cachée.
Ah, mais ça fait partie de l'omerta française. Il y a d'ailleurs une série. Il y a un livre qui était très bon de Sophie Coignard et Alexandre Wickham, qui s'appelait L'omerta française. Ce livre, je l'ai acheté quand il est sorti. Je l'ai lu deux ou trois fois. Et ce qu'il y a d'extraordinaire en France, c'est cette capacité à parler de choses inintéressantes aux gens dans les médias et de taire tout ce qui pourrait intéresser les gens et qui sont vraiment des sujets de fond et de société.
Mais tu as des bonnes nouvelles, toi, aujourd'hui, à part d'être ici?
Alors, ça, c'est une bonne nouvelle, mais des bonnes nouvelles à quel niveau? Économique, pour la France, etc.
Par exemple, oui.
Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles parce que malheureusement, aujourd'hui, on est dans une crise mondiale qui est terrible. Ce qui me fait de la peine, c'est que cette crise qu'on nous dit avoir découvert en 2008, moi je la prédisais dans mon avant-dernier bouquin en 2007, en disant que ça allait péter. Parce qu'on avait une crise du surendettement, parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une crise du surendettement. L'Occident, les pays occidentaux, ont vécu au-dessus de leurs moyens depuis le premier choc pétrolier en général, c'est-à-dire depuis 1973. Les Américains ont fait tourner la planche à billets en veux-tu en voilà depuis la non-convertibilité du dollar en 71. Les Américains ont fait de la dette, de la dette, de la dette, mais comme ils peuvent imprimer des dollars et que toutes les
matières premières... Que nous ne pouvons plus. Depuis 1953.
Depuis même après, parce que...
Depuis la loi Rothschild.
Oui, enfin, pour 73.
Oui,
la loi Pompidou Rothschild.
Non, 53, c'est autre chose.
Mais surtout, le plus important...
Vous écoutez une radio, on va parler de complot.
Non, on va pas parler de complot, c'est que depuis qu'on est passé à l'euro... Tout se décide à Francfort au niveau de la Banque Centrale Européenne et on doit rendre des comptes à Bruxelles au niveau de nos déficits. Donc, aujourd'hui, en France, on peut plus, les politiques ne décident plus de rien au niveau économique. Il faut quand même être un peu rationnel. Et quand on regarde un peu plus près, on est dans une vraie crise mondiale. Et ce qu'il y a de terrible, j'espère qu'on va avoir l'opportunité d'en parler, et quand on voyage, on a la chance de le comprendre, c'est qu'on ne vit pas aujourd'hui la fin d'une époque, parce qu'une époque, c'est court. On avait eu la belle époque, c'était 1900-1914. Après, il y avait eu le premier conflit mondial, puis après, ça avait été les années folles, de 1919 à 1939. Aujourd'hui, on ne vit pas la fin d'une époque, on vit la fin d'une ère. Et ça, personne n'ose le dire. dans les médias, que ce soit dans les politiques ou dans les journalistes. Pourquoi ? Parce que la connivence en France, et ça personne ne peut dire le contraire, entre le monde politique et le monde médiatique est telle que tout ce qu'on veut nous cacher, tu parlais des affaires de Mitterrand entre Mazarine et la maladie, on savait dès 80 que Mitterrand était malade, mais personne n'en a parlé, parce que c'était l'omerta. On connaissait l'existence de la Mazarine. Le seul qui en ait parlé, il s'appelait Jean Édernalier.
Et il en est mort.
Alors je sais pas si on est mort, mais en tout cas, il a été particulièrement persécuté rapport à ses révélations.
Oh, il y en a beaucoup qui en sont morts, hein. Comme tu dis, les médias restent très, 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 très,
très prudents. Et ça,
surtout pas ébruiter, surtout pas.
Autant.
Vous le saurez dans 50 ans si vous êtes toujours vivant.
Exactement. Autant aux États-Unis, je trouve insupportable le voyeurisme qui existe sur la vie des hommes politiques.
À propos des États-Unis, j'ai choisi la date du 11 septembre 2012. Elle était bien critiquée. Tiens, pourquoi lancer une nouvelle web radio le 11 septembre? Ben justement parce que c'était en 2001. Tu faisais quoi, toi?
Ben c'est des jours. Il y a des jours dans la vie qu'on
n'oublie. T'en souviens plus?
Non. Il y a des jours dans la vie qu'on n'oublie jamais ce qu'on faisait. Moi, ce jour-là, j'étais à Millau, donc dans l'Aveyron, et je suis sorti de chez un client et j'entends un avion a heurté une tour à New York. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, parce que j'étais déjà à New York. Je me dis, tiens, mais l'axe des pistes à Kennedy, c'est ça. L'axe des pistes à LaGuardia, c'est ça. L'axe des pistes à Newark, c'est ça. Et je me dis, mais c'est bizarre, les tours jumelles, les Twin Towers, sont à Manhattan Sud, et aucune n'est dans l'axe d'une piste. Et moi, j'ai fait un raisonnement bête. Je me suis dit, ça doit être un pilote d'un petit avion de tourisme qui a eu un malaise. Ça peut arriver, malheureusement. Parfois, on s'écrase, mais s'il a un malaise en gardant de l'altitude, en étant pas loin des tours, qui va s'en casser dans une tour, j'ai pensé à ça. J'ai continué ma route, et 5 minutes après, ou un quart d'heure après, je sais plus, très peu de temps après, j'entends la deuxième tour des tours jumelles a été percutée par un avion. Et là, instinctivement, j'ai compris. Et j'étais...
C'est à partir de cette période que ce changement d'air dont tu parles, ce changement de système peut-être, a vu sa naissance.
Alors, il y avait à l'époque, quand il y a eu le 11 septembre 2001, Alexandre Adler, qui avait écrit un livre qui s'appelait « J'ai vu tomber le monde ancien ». Je crois que c'est « J'ai vu finir le monde ancien » qui partait du principe des événements du 11 septembre. Pour terminer, j'ai donc compris, là j'ai compris, et une heure après, j'écoute, parce qu'au fin fond de l'Aveyron, on captait qu'une seule radio, c'était France Inter. Je n'oublierai jamais, d'un seul coup, la voix, c'était Jean Lucas, qui hurle « Le Pentagone est en feu ». Et là, je me suis dit « C'est pas possible ». Et je me suis dit, bon, là, c'est un truc de fou, quoi. C'est après un avion qui avait disparu au-dessus de la Pennsylvanie, etc. Celui, le vol 93.
Ouais. 4 avions, ouais.
Oui, dont celui que le vol 93 qui est tombé en Pennsylvanie. Ouais. Je peux être très franc. Ouais. Il passait à la télé il y a quelques années le film Vol
4. Vous écoutez ce que dit l'invité? Je peux être très franc, mais.
Ouais. Non, mais c'est pas une honte. Ouais. J'ai regardé le début du film Vol 93.
Non, mais je me mets à la place d'un animateur de télévision connu. Ah ouais. Non, surtout pas monsieur Philippe David, ne soyez pas franc, hein.
Je n'ai jamais pu regarder ce film jusqu'à la fin. C'était trop horrible. Je n'ai jamais pu regarder ce film jusqu'à la fin. J'ai éteint, j'ai pas pu regarder. C'est terrible. Et c'est une date qu'on n'oubliera jamais. Oh. Je pense que tout le monde sait où il était le 11 septembre 2001. Tout le monde.
Le 11 septembre 2012, nous étions dans le studio Jean-Jacques Charbonnier.
Exactement.
Un Ariégeois, lui aussi. Je dis simplement pour ceux qui, comme d'habitude, sont toujours en train de détruire au lieu de construire, que les Américains, on les aime ou on les aime pas, mais là, on peut s'incliner devant le peuple américain, parce que aujourd'hui, là où il n'y avait plus rien, peut-être n'y aurait-il pas dû avoir quelque chose là où ça s'est passé, mais elles ont repoussé les tours.
Je vais dire un truc terrible, c'est une discussion que j'ai eue avec...
C'est des gens qui sont capables de se remettre en question.
Oui, c'est une discussion que j'avais avec mon frère pas plus tard que ce matin. Il me dit, je ne comprends pas que les Américains reconstruisent une tour à un endroit où il y a eu tant de morts. Je dis, mais pour moi, c'est symbolique. Ils font ça pour montrer qu'ils arrivent à se relever même des pires épreuves. Et en fait, je suis allé sur le chantier de la tour il y a un an et demi. Ça commençait à pas mal avancer. Et juste à côté, il y a le mémorial, avec des uniformes de pompiers qui sont recouverts de poussière, etc. Plein de traces de ce qui s'est passé ce jour-là. Un jour qui a profondément marqué l'humanité. Ce jour... Je parlais de la crise du surendettement. Ça, c'est plus un problème économique. Quand le 11 septembre, ça a marqué quelque part la fin d'un monde, parce qu'on pensait que aucun acte qui puisse tuer autant de gens d'un coup puisse arriver, à part un bombardement nucléaire, que aucun pays ne s'amusera à faire aujourd'hui au risque de se faire vitrifier par les autres. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et moi, franchement, ce jour-là, j'ai pas honte de le dire, quand j'ai vu les tours tomber, j'en ai chialé.
Et c'est un jour qui a pas été le seul.
Ah oui, c'est un jour qui a profondément marqué ma vie. Ouais. Et pourtant, c'était le 11 septembre était, jusqu'à ce jour-là, un des jours les plus heureux de ma vie. Parce que j'avais 18 ans, j'avais économisé pendant 2 ans pour pouvoir me payer mon rêve de partir aux États-Unis chez ma correspondante. Et le 11 septembre 84, j'arrivais aux États-Unis. Et quand j'ai vu 17 ans après ce qui se passait, depuis le 11 septembre n'est plus un jour joyeux pour moi. C'est comme ça.
Bah, tu te souviendras du 11 septembre 2012.
C'est sûr.
Hein? Tu vois, c'est toujours une façon de...
C'est toujours, non, mais il y a des dates importantes dans la vie. Moi, il y a plein de dates qui sont importantes. C'est pour ça que c'est sûr que ce sera une date importante, c'est clair.
Donc, je reviens à la date importante qui nous a permis de nous retrouver dans le studio, toi et moi. Tu parles de ton père, ça me touche.
Oui.
Et puis, tu réponds. Et puis le dialogue est arrivé entre nous par intermédiaire de Facebook, par les petits trucs, les machins, les j'aime.
Oui.
C'est vrai, il y a pas de j'aime pas hein, sur Facebook.
Si, il y a une application, faut la télécharger.
Bah, tu vois, tu la connais beaucoup mieux que moi. Tu la connais beaucoup plus. Moi, pourtant, j'y passe du temps et j'ai beaucoup appris. Je ferai une émission sur Facebook, justement avec parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de nous écouter. Et au mois de mai, j'avais lancé Radio Étoile du Cœur, mais des rediffusions d'anciennes émissions à moi. Et je communique sur Facebook, et on communique avec les moyens qui nous sont donnés. Hein.
Bien sûr.
Voilà, quand on a quelque chose à donner, à partager, pourquoi pas le faire. Et je repasse cette émission que j'avais faite en 2008, je crois, avec Isabelle Caro.
Oui.
Et il s'est passé quand même un drôle de truc ce jour-là.
Mais il s'est passé, tu racontes ou je raconte?
Non, raconte.
Bah, tu as mis sur ton profil Facebook la photo qui avait été passée, je crois, 4x3 dans toutes les villes de France et de Navarre. Isabelle Caro était un mannequin anorexique que tu avais reçu sur une radio à l'époque et avec qui tu étais devenu ami et qui malheureusement est décédé. Et pour lui rendre hommage, tu as mis sur ton profil Facebook la photo d'Isabelle Caro qui avait été sur tous les murs de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, etc. Ce qui t'a valu d'être censuré, viré, je sais pas comment dire, de Facebook pour un délai de 30 jours. Et comme j'ai trouvé ça profondément, un, injuste et deux, scandaleux, j'ai appelé le rédac-chef d'Atlantico, je lui ai dit, écoute, c'était l'ancien rédac-chef parce qu'il vient de changer, je lui ai dit, écoute, là il y a vraiment un truc qui arrive à un de mes amis Facebook, je vais lui téléphoner parce que vraiment ça me révolte et j'ai envie de faire une chronique à ce sujet. Il m'a dit, écoute Philippe, vas-y, n'hésite pas. Et c'est lui qui a choisi le titre, qui était pas mal,
très
qui s'appelait Pudicon, Pudibon.
Pudibon.
Quand Facebook, j'ai oublié la fin du titre, c'était Pudicon, Pudibon. Et l'article avait très très bien marché parce qu'il est rentré dans le top 2 ou top 3 des plus lus, il a été beaucoup partagé. Et ça fait partie des choses, quand on me connaît un peu, quand quelque chose me révolte, je peux pas m'empêcher de ne pas réagir. Et le fait que t'aies été censuré, on s'était jamais parlé, on s'est téléphoné pour la première fois quand j'ai dit, écoute, on se voyait à l'époque, j'ai dit, voilà, écoutez, moi ce qui vous arrive, ça me désole, ça me fout les boules, il n'y a pas d'autre mot. Et je vous propose de faire un article sur Atlantico, est-ce que vous me permettez de vous citer votre nom, etc. Parce que j'ai pas une carte de presse, mais je pense avoir quand même une certaine éthique dans mes articles.
Pour fermer la parenthèse Facebook, il ne peut s'agir que de dénonciation.
Ah mais ça, il suffit de quelqu'un
de calomnie.
Signaler.
Avec le nombre de commentaires tous les jours, les 800 millions d'abonnés.
Ah mais c'est Facebook est
c'est un pays.
Facebook est le troisième pays de la planète.
Après l'Inde.
Après l'Inde et la Chine. Mmh. Enfin après la Chine et l'Inde dans l'ordre. Mmh. Le premier en population, c'est la Chine.
Peut-on raisonnablement imaginer qu'il y ait des modérateurs qui lisent tous les... C'est pas possible.
Non, c'est pas possible. Ils lisent 800 millions de commentaires par jour. Mmh. Mais même en lisant, 1000 commentaires par jour, ce qui est énorme, faut voir le nombre de modérateurs que ça ferait, mais c'est pas possible. Donc c'est quelqu'un qui a cliqué signaler, et il y a un type qui a vu signaler, il a vu l'affiche, qui n'avait mais rien d'impudique, rien d'indécent, etc. C'était juste une dénonciation, il le rappelle à la mort d'une de tes amies.
Mais elle est nue.
Oui, mais on voit juste un peu les fesses.
On voit les nichons.
Non mais
le corps d'une jeune femme qui pèse 28 kilos.
Non mais c'est terrible.
Elle s'est battue pendant des années pour que l'anorexie soit prise en compte dans la société, parce que c'est un vrai drame.
Ah mais non, mais le problème de France,
il y en a de plus en plus des jeunes femmes et des jeunes hommes. Il y en a de plus en plus.
Mais il y a un vrai problème sur Facebook, que Facebook est un réseau mondial, comme tout réseau Internet, ou presque, parce que par exemple en Chine, Facebook est censuré. Donc il y a le Facebook chinois qui ne sort pas des frontières de la Chine, et je crois qu'il ne peut fonctionner qu'en caractère mandarin. Et ce sont les lois américaines qui s'appliquent. Et d'ailleurs, je crois que j'avais écrit en l'article, c'est quand même bizarre que c'était au moment où il y a eu, il me semble, le massacre dans le cinéma à côté de Denver, où j'avais écrit, c'est quand même dingue que dans un pays comme les États-Unis, quand on voit un téton, comme quand il y avait eu le Nipplegate, avec Janet Jackson, la sœur de Michael Jackson, dont on avait vu un téton pendant le Super Bowl, ça avait fait une affaire d'État qui était montée jusqu'au gouvernement, et qu'à côté de ça, un type peut acheter sans problème 3000 cartouches, aller dans un cinéma, massacrer 300 personnes, et que ça ne pose strictement aucun problème. Je vais t'avouer, j'ai pas mal d'amis aux États-Unis, c'est un pays que j'aime beaucoup, à côté de ça. Et j'étais là-bas, je me suis retrouvé... Alors, ça donne un côté intimiste à l'émission, on racontait un peu sa vie. J'avais la grand-mère de la famille chez qui j'étais, qui était décédée dans le sud Dakota, donc assez loin. Moi, j'étais dans le Montana. Et je m'étais retrouvé dans une famille où j'avais une des filles comme élève en cours de français. Et j'arrive chez les parents à Beverly Hills. Et là, je vois les photos du père avec Reagan, Kennedy, avec tous les présidents américains. Parce qu'il était avocat de Ronald Reagan, qui était président des États-Unis à l'époque, pour le Montana. Et il avait été représentant de l'État du Montana, dans le Sénat du Montana, pas Washington. Et on est amis depuis, bon, lui, il est décédé il y a un peu plus d'un an. Et quand on a 18 ans, c'est très surprenant d'arriver dans une super maison à Beverly Hills, avec la photo de la famille, avec tous les présidents américains. Et grâce à eux, ils m'ont dit un jour, écoute Philippe, est-ce que tu peux recevoir deux jeunes Américains en France? Et elle me dit, c'est le petit-fils d'Ernest Hemingway, dont la mère est une de mes amies. À l'époque, j'étais chez mes parents, j'avais 19 ou 20 ans, j'ai dit, écoute, bien sûr, ils dormiront à Paris, parce qu'ils étaient arrivés dans un hôtel qui était insalubre, ils n'avaient pas trop de fric, ils étaient étudiants, et j'étais allé chercher en leur hôtel qui était dans le 6e, ou un truc comme ça, qui était absolument infect pour le prix, et je les avais pris chez mes parents, ils avaient passé une semaine, etc. Et je me rappellerai toujours une scène qui m'avait fait rire, on était à table le soir, et juste avant le journal de 20h, parce qu'on avait bien regardé le journal de 20h, il y avait une pub pour Robao, où on voyait une femme légèrement dénudée, on va dire ça comme ça, qui était entre-temps d'ailleurs devenue la femme du tennisman Mats Wilander, c'était un mannequin sud-africain. Et là, les deux Américains, Sean Hemingway et son ami, voient ça, et ont les couverts pratiquement qui tombent sur la table, et me disent « Mais comment vous acceptez ça en France ?» Je dis « Mais écoute, c'est la première fois qu'il venait en France. » Je dis « Mais tu sais, en France, c'est considéré comme naturel. » Ils me disent « Mais c'est un scandale, c'est de la pornographie à une heure de grande écoute. » Je dis « Non, c'est juste une femme nue. » Je dis « Mais quand tu vas aux États-Unis, quand tu vas à San Francisco, à Castro Street, peux avoir, dans le quartier homosexuel, tu peux avoir deux hommes qui s'embrassent dans la bouche dans la rue. » Et je dis « Là, ça choque pas les Américains. C'est pas plus choquant à la rigueur qu'une femme nue à la télé. » Je dis « Non, là, c'est la liberté d'expression. C'est la liberté individuelle. » Et je dis, bah écoute, dans notre culture, c'est comme ça. Mais pour des Américains, c'est strictement incompréhensible. Et c'est ce qui me gêne un peu aux États-Unis, c'est que c'est un pays qui est extrêmement moraliste, mais quand on gratte un peu, c'est tout de suite beaucoup moins moraliste. C'est un pays de paradoxe, mais je pense qu'on est tous très paradoxes. Tant les hommes en individualité que les peuples. On est tous très paradoxaux.
Non, Jeff, t'es pas tout seul. Arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a laissé tomber. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais tu sais que tu me fais honte à sangloter comme ça bêtement devant tout le monde. Parce qu'une trois quarts putain t'a claqué dans les mains. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais tu fais honte à voir. Les gens se payent ma tête. Foutons le camp de trottoir. Allez, viens. Viens, j'ai. Viens. Il me reste 3 sous. On va laisser les boire chez la mère Françoise. Viens, Jeff, viens, viens. Il me reste 3 sous, et si c'est pas assez, il me restera l'ardoise. Puis on ira manger des moules et puis des frites et puis des moules, et du vin de Moselle. Et si t'es encore triste, on ira voir les filles chez la madame André. Paraît qu'il y en a de nouvelles. On sera bien tous les deux, on chantera comme avant, comme quand on était jeunes, Jeff. Comme quand c'était le temps que j'avais de l'argent. Non, Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête tes grimaces, soulève tes 100 kilos, fais bouger ta carcasse. Je sais que t'as le cœur gros, mais faut le soulever, Jeff. Non, Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête de sangloter, arrête de te répandre, arrête de répéter que t'es bon à te foutre à l'eau, que t'es bon à te pendre. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais c'est plus un trottoir, ça devient un cinéma où les gens viennent te voir. Allez, viens, viens, viens. Viens, il me reste ma guitare, je l'allumerai pour toi, et on sera espagnol, Jeff. Viens, viens, comme quand on était môme, même que j'aimais pas ça. Tu imiteras le rossignol, puis on se trouvera un banc, on parlera de l'Amérique, où c'est qu'on va aller, tu sais, quand on aura du fric, Jeff. Et si t'es encore triste, ou rien que si t'en as l'air, je te raconterai comment tu deviendras Rockefeller. On sera bien tous les deux, on chantera comme avant, comme quand on était beau, Jeff, comme quand c'était le temps d'avant, qu'on soit... Pauvre. Allez, viens. Allez, viens, Jeff. Ouais, ouais. Viens, Jeff. Viens, viens.
Alors, selon la formule consacrée, vous écoutez Radio Étoile du Cœur, une nouvelle web radio qui voit le jour aujourd'hui, 11 septembre 2012, avec Philippe David comme premier invité. Pourquoi le choix de Brel?
Ah ben, Brel, beaucoup de raisons. Déjà, bon, j'adore Brel. Je pense que cette chanson, Jeff, j'en avais choisi une autre au départ, qui était Voir un ami pleurer, qui est une chanson magnifique. Mais je pense que Jeff, il n'y a aucune chanson où il y a autant d'expressions d'un type qui réconforte son ami qui a perdu sa copine, etc. Je trouve que cette chanson, Brel dedans, il est vraiment au top. Deuxièmement, j'adore Brel, je crois que je l'avais dit déjà, mais je peux le répéter parce qu'il n'y a pas de problème. Il y a une chose qui a été une révélation pour moi quand j'étais ado sur Brel. On était parti passer un week-end aux Pays-Bas, on était allé à Amsterdam avec mes parents, et on était allé dans le port d'Amsterdam. Et on était passé le long d'une grande route des quais, c'était. Et il y avait les restaurants. Et on voyait les marins qui mangeaient à l'intérieur. Et j'ai pensé, et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leur grosse main invite à revenir en plus. Et je me suis dit que écrire une chanson qui décrivait aussi bien ce lieu, pour faire ça, il fallait intrinsèquement être un génie.
Oh ben, souviens-toi, et ça fait des grands...
Et ça fait... Oui, ça c'est ces gens-là. Ah. Alors ça, c'est une chanson extraordinaire aussi. Par contre, pas très sympa pour les Flamands. Parce que c'est des Flamands qui parlaient. Et cette chanson, quand j'ai vu le port d'Amsterdam, et quand j'étais ado, j'aimais bien Brel, j'ai trouvé que c'était... J'ai jamais vu... Je me suis dit, mais quand j'écoutais le port d'Amsterdam, je m'imaginais comment était le port d'Amsterdam, et en vrai, c'était ça.
C'est ça.
Et c'est exactement
enfin, c'était ça.
Et alors, je l'ai choisi également parce que je crois que tu étais très proche de Brel, que tu étais un de ses amis de longue date.
Je l'ai pas souvent dit, sauf à des amis, oui effectivement. Ouais.
Et que même tu avais un lien de famille familial avec lui.
Par rapport à mon fils Vincent,
oui. Oui, et que donc, je lui dis, ben, comme il me fait la gentillesse de m'inviter pour la première, Je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir en mettant Brel et ce sera un clin d'œil en même temps.
Mais Jeff... quand tu dis des moules et puis des frites, j'ai pensé à Arnaud.
Oui.
Sa nationalité, parce qu'on va peut-être revenir à la raison essentielle pour laquelle je t'ai demandé d'être le premier invité. Tu écris, tu es chef d'entreprise, tu parles 7 langues. Tu vends quoi? Tu fabriques?
Non, moi, je suis pas chef d'entreprise, je suis actionnaire de la société.
C'est la promotion pour l'instant, la radio c'est gratuit. Hein.
Oui, pas de problème. Je suis actionnaire de la société, je suis un des deux dirigeants et je travaille dans l'éclairage et j'importe des produits non finis d'Asie et on fait toutes les finitions en France et on les revend ensuite en France et dans différents pays européens, dans les dom-tom, etc. Je dois dire que c'est ce qu'il y a de bien quand on voyage beaucoup, et je voyage beaucoup pour mon travail, et je voyage beaucoup également pour le plaisir, c'est que ça permet de découvrir d'autres gens, d'autres cultures, d'autres modes de pensée, parce qu'on ne pense pas du tout de la même manière d'un pays à un autre. Et c'est même pas en changeant de civilisation, c'est en changeant parfois d'un pays à l'autre. Il y a un comparatif que j'aime bien faire aux gens. Je dis, quand tu veux dire que quelque chose est bénéfique, en français, tu dis c'est bénéfique. Dedans, il y a le mot bien. Quand tu le dis en anglais, c'est profitable. Dedans, il y a le mot profit. Et je dis, ça explique la différence de pensée entre les latins ou les français et les anglo-saxons ou les anglophones. Quand quelque chose va bien, dans un cas, on met une notion de profit, valeur matérielle. Dans l'autre cas, on met une valeur de bien, valeur spirituelle. Et pourtant, on est des peuples très proches. Les Anglais, les Français, les Américains. Alors, quand on prend un pays comme le Canada, où ils sont partiellement francophones, partiellement anglophones, ça prouve à quel point les antagonismes peuvent être forts entre les deux. Parce que l'un, c'est une culture moraliste catholique, l'autre, c'est une culture beaucoup plus matérialiste et protestante.
Le fait de parler 7 langues, qui sont ?
Alors, couramment, je parle français, anglais, espagnol, portugais, je me débrouille pas mal en allemand, j'ai fait 4 ans de russe et un peu d'italien.
Et c'est pour ton travail ou pour ton... pour ton plaisir.
Alors pour le travail, parce que bon, j'étais bon en langue à l'école, j'étais dans un lycée qui était assez axé langue, donc j'ai passé 4 langues au bac, mais j'ai pas eu la 4e à passer parce que c'était en option et je l'avais eu avant. Et un jour, je suis devenu commercial export, on m'a donné le Portugal, je parlais en français et espagnol couramment, donc je me suis dit je vais apprendre le portugais, et je me suis débrouillé à apprendre le portugais tout seul. Et je suis tombé amoureux de ce pays qui est le Portugal, qui est un petit pays magnifique, qui est... Le général de Gaulle disait une phrase terrible sur le Portugal et magnifique. Et il disait le Portugal, petit pays, grande nation. Et ça résume exactement ce qu'est le Portugal, un petit pays de 10 millions d'habitants à peine, mais une très grande nation pour son passé. Et quand on va revenir sur notamment la crise mondiale, le changement d'ère et pas d'époque, on sera obligé, je te préviens tout de suite, de parler du Portugal. Parce que tout commence par le Portugal.
Surtout au mois d'avril.
Oui, pour la révolution des œillets, c'est ça?
Entre autres. Mais bon. Tu as écrit un bouquin récemment qui est sorti en mars 2012.
Avril, oui, exactement.
Avril, oui. De la rupture aux impostures, mais tu n'en étais pas à ton premier bouquin.
Non, c'était mon troisième. Le premier, je l'avais écrit en 2002. Il s'appelait « Il va falloir tout reconstruire ». C'était un paysage assez cataclysmique du... C'était un descriptif du paysage assez cataclysmique de la France, de la politique française suite au 21 avril 2002. Je l'avais auto-édité, et bien qu'auto-édité, il avait été retenu par France Inter, par Jean-Michel Léapati, dans l'émission, à l'époque il était sur France Inter, dans l'émission La Politique dans les Livres. J'en ai fait un deuxième en 2009 qui s'appelait Journal intime, une année de rupture, qui décrivait la campagne des présidentielles de 2007 plus les 15 premiers mois de la présidence Sarkozy. Et là, j'ai fait celui-ci qui décrit le paysage politique français aujourd'hui. Je l'ai écrit au moment de la présidentielle et comme tu l'as lu, je pense malheureusement avoir été bon prophète parce que tout ce que j'ai prédit s'est passé ou est en train de se passer.
Alors, un petit mot de Grégoire David qui n'a rien à voir avec
ta
David, famille. Hein.
Mais non, David, c'est le 17e nom français le plus courant. Alors, il y a beaucoup.
Qui est le concepteur, le web designer du site Étoile du Cœur, qui nous avons bossé ensemble pour mettre cette radio au point avec Jean-Christophe aussi que je salue, il doit être à l'écoute, enfin avec plein, mais je dirais merci à la fin, on fera un petit peu les Drucker. Grégoire écrit la voix de Philippe, elle est ok, et il écrit également bonne nouvelle, pendant les premières 45 minutes, il n'y a pas eu une seule coupure de pub.
Ah bah c'est merveilleux.
Mais peut-être qu'il nous écoute YouStream.
Ah bah c'est parfait. Bah, si on nous écoute même aux USA, espérons qu'il y ait quelques Cajuns qui parlent français qui nous écoutent.
Alors tu parlais de ton livre, ton premier livre, il va falloir tout reconstruire. Imagine-toi que j'ai reçu plusieurs mails, dont un de mon ami Yves Accard, que tu ne connais pas, mais qui est un garçon que j'avais invité il y a quelques années. Voilà ce qu'il écrit. Bonjour Jean-Claude, voici quelques questions pour ton invité de ce soir. Première question, le titre « Il va falloir tout reconstruire » est-il inspiré du livre de l'Apocalypse, chapitre 21, 05 ? Voici que je fais toute chose nouvelle. Plus généralement, n'est-ce pas le propre de la fin d'un cycle d'avoir à tout reconstruire à partir du germe le plus actif qui reste en vigueur ? Les élus, là je rigole, il ne s'agit pas de ceux des urnes.
Alors je ne me suis pas inspiré de l'Apocalypse, mais j'avais fait un constat qui était... Malheureusement, on m'avait dit à l'époque, et j'avais pas trouvé d'éditeur, ce qui est terrible, c'était un journaliste célèbre qui m'avait dit, vous avez fait la meilleure analyse du 21 avril que j'ai vu, ce qui m'avait quand même plutôt flatté. Mais j'avais un éditeur d'ailleurs qui m'avait dit, votre bouquin est bon, il est excellent, et vous avez un gros défaut, vous êtes inconnu. Parce qu'en fait, malheureusement, aujourd'hui, pour se faire connaître, il faut déjà être connu. Donc, il faut avoir les
tâches, etc. Vous voulez passer à la télévision, mais vous êtes connu, vous avez fait... Non, mais vous pourrez faire un casting, ah ben non.
C'est exactement ça. Mmh. Et surtout, faut pas sortir des sentiers battus. Et moi, j'osais sortir des sentiers battus parce que j'aime pas rester dans les sentiers battus et dans la pensée unique, qui est insupportable. Et ce livre, en fait, il décrivait tous les mots dont aucun n'a été changé aujourd'hui. 2002... Que s'est-il passé? Au premier tour de la présidentielle, on a un gigantesque mot de cambronne qui est dit par les Français à la classe politique. Jusque-là, rien à dire. Deuxième tour, il n'y a pas de deuxième tour. Il y a un référendum anti-Le Pen. Qui est suivi, comme on sortait de 5 années de cohabitation, de 2 tours de référendum anti-cohabitation législative. On se dit, bon, là, les Français en ont marre, on espère que la classe politique va réagir. Pendant les 5 années de Chirac, Raffarin, de Villepin, il ne se passe rien. On prend les mêmes, on recommence. Et là, arrivent trois personnages politiques qui essayent d'amener quelque chose de nouveau, qui sont, avec leurs qualités, leurs défauts. Nicolas Sarkozy, qui fait campagne sur la rupture, d'où le titre de mon deuxième livre, Journal intime d'une année de rupture. Ségolène Royal, qui fait campagne sur la rupture. François Bayrou, qui fait campagne sur la rupture. Et mon premier chapitre s'appelle dans le deuxième bouquin « Une année de rupture, point de suspension ». Parce que si on regardait, tous les candidats proposaient la rupture. De José Bové à Jean-Marie Le Pen, tous proposaient la rupture. Évidemment pas la même rupture. Mais tout le monde proposait la rupture. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que bon, Nicolas Sarkozy a été réélu assez largement, à 53 et quelques pourcents.
Des votants.
Qui fait, oui, parce que...
Mais je fais toujours le distinguo.
Oui, hein. Mais en 2007, on avait battu les records de participation au premier tour parce que les Français avaient un espoir de changement, de fin d'une époque, de fin d'une génération. La génération Giscard d'Estaing, Chirac, etc. Et en fait, la rupture, c'était juste un concept marketing. Parce que quand on veut vraiment mettre en route son programme ou ses promesses, là, on se heurte à tous les intérêts divers et variés auxquels certains sont particulièrement attachés. Je peux prendre un exemple ?
Oui, juste après avoir lu quelques messages. Alors, oui, janvier 73, la loi Pompidou-Giscard, qui réformait le code monétaire de l'époque, c'est Yule. Facebook est en cheville avec la NASA pour le filtre. Le NSA, je ne sais pas ce que c'est le NSA. Tu vois ce que
le NSA, c'est l'autorité de surveillance.
Oh là, autant pour moi, excuse, c'est Yule.
Je crois que c'est National Security Agency.
Oui, est en cheville avec le NSA pour le filtrage des commentaires. apparemment non, puisque ton commentaire est passé. Et Jonathan qui habite Lyon, non, la politique de pub a changé chez Ustream. Michel, qui est dans le sud aussi de la France, dans la région de Toulouse, je crois, ou dans l'Aube, ou dans l'Aude, va me le dire. J'ai eu 2 coupures. Alors Jonathan précise, elle est affichée sur chaque machine suivant un compteur individuel, c'est la pub. Hein.
Oui.
Donc moi j'ai pas la possibilité de voir ce qui se passe en réalité. Alors elle est affichée sur chaque machine suivant un compteur individuel. On peut devancer l'affichage de cette pub en cliquant sur le lien. Voilà, Michel habite dans le 73. Ne me parle pas de Grenoble.
Ah bah c'est le 38. Hein.
C'est le 38.
C'est pas le 73.
Alors 73, 73 c'est Chambéry. C'est Chambéry, voilà.
qui fait malheureusement la une des journaux ces derniers temps pour une situation assez dramatique. Mmh. Le multiple meurtre des Britanniques à... C'est en 73 ou en 74, je crois.
À Chevaline ?
Oui. Mmh. Et donc, pour y revenir, on a tout... Dès que quelqu'un veut faire une réforme, Général de Gaulle, une fois de plus, qui était quand même un très bon analyste de la politique, disait « Comment voulez-vous gouverner un pays qui a 365 sortes de fromage ?» Je vais prendre un exemple, mais emblématique. Emblématique. Tout le monde sait qu'il faut, en France, réformer l'État. Et réformer les collectivités territoriales. Je vais prendre un exemple qui va peut-être paraître provocateur, mais bon, on a un langage de liberté, qui est la réforme des collectivités territoriales. En France, on a 6 échelons. On a les communes, les communautés de communes, les départements, la région, l'État, l'Europe. 6 échelons administratifs.
Et tu reprends le programme d'Alain Mourgui?
Je sais pas qui c'est. De nom, je connais, mais je suis désolé.
Alain Mourgui, qui avait créé l'Union des gens. Ah, de bon sens.
Ah ben là, c'est du bon sens. Alors,
oui.
On a 6 échelons administratifs. Ouais. Ah, rien qu'avec les communes, on a plus de 36 000, ce qui fait qu'on en a plus que tout le reste de l'Union européenne. Et ce qui n'a pas un léger problème. Et j'aime bien faire ce comparatif qu'on considère souvent comme provoquant. Dans l'ex-URSS, les échelons administratifs avaient été décidés en 1924 par Staline, qui n'était pas fondamentalement un libéral, tant au niveau politique qu'au niveau économique. Et dans l'ex-URSS, il y avait 4 échelons administratifs. La ville, le soviet local, la république, à l'époque c'était la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan, etc., et le soviet suprême à Moscou. En France, on a moitié plus d'échelons administratifs que dans l'ex-URSS. Est-ce qu'il n'y a pas un léger problème? Cependant, dès qu'on veut y toucher, et Sarkozy a voulu faire une réforme territoriale, qui est monté sur le bouclier en disant qu'il fallait surtout rien toucher? Tous les élus locaux, conseillers généraux, conseillers régionaux, etc., qui ne tiennent surtout pas à perdre leur mandat. Donc ce qu'il y a de fabuleux, c'est que quand des gens vous disent « il faut nous élire au niveau national », les mêmes font tout pour que ceux qu'ils ont fait élire échouent en empêchant toute réforme d'envergure. Ce qui est quand même terrible. Est-ce qu'on peut justifier que la France ait moitié plus d'échelons administratifs que l'URSS? Évidemment non. Je vais prendre un autre exemple. Les États-Unis, on y revient. 300 et quelques millions d'habitants. 100 sénateurs. La France, 65 millions d'habitants, 577 députés. Les États-Unis, 9 millions et demi de kilomètres carrés, la France, 550 000.
Il y a des économies budgétaires à faire, alors, non?
Mais bien sûr. Mais essaye de dire, il faut baisser le nombre de députés ou de sénateurs.
T'en as pas, non?
Tu sais ce qu'on va te répondre tout de suite? Populisme. Parce que ça, c'est l'accusation gratuite qui tombera automatiquement. Populisme.
Personne n'en avait parlé pendant la campagne? Mélenchon, il n'avait pas un peu
causé, non? Non, personne n'en a parlé.
Même Mélenchon?
Même Mélenchon. Bah, Mélenchon, il est sénateur, hein.
Et le sénateur. C'est vrai,
on va pas se couper l'herbe sous le pied, hein. Ouais. Comme le dirait un proverbe africain, deux crocodiles fréquentant le même marigot ne se dévorent pas entre eux.
Je vois que nous avons les mêmes lectures.
On a les mêmes lectures.
Alors, je salue Johan Eskakovic, qui nous écoute depuis la Belgique. Bonsoir Jean-Claude, heureux de te réentendre, longue vie à ta nouvelle émission Amitié. Ah, Johan, tu connais un peu l'histoire de Rennes-le-Château, tu en as entendu parler?
J'ai honte? Non.
Non, tu connais pas. Faut que tu rentres en contact avec Michel, tiens, je te mettrai en contact avec lui. Alors, il y a un autre message aussi de Sébastien, ça me fait plaisir de te lire. Ah, ça vient déjà, ça a commencé, je t'écoute, bravo à toi. Tu vois, ils sont là.
Merci.
Ils sont présents. Donc je reprends la deuxième question, enfin je la reprends pas, je la lis, la deuxième question de Yves Accard. Deuxième question, Einstein nous a dit, un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé. Je vais le relire plus lentement.
Ah non, j'ai compris.
T'as compris? J'ai pas compris ce que je disais.
Pourtant c'est de Einstein, hein, mais...
Dans l'élargissement de conscience qui est prôné par Einstein, incluez-vous ce qui pourrait s'appeler une dimension spirituelle. Je t'ai entendu prononcer le terme spirituel tout à l'heure.
Oui.
Je repose la question.
Alors, pour la première partie de la question, est-ce que changer un problème, faut pas modifier son mode de pensée par rapport à ce qui a créé le problème? Bien entendu que oui. Le problème en France, c'est que il y a une école de la pensée qui s'appelle l'école nationale d'administration. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. En France, à l'exception de... Alors, depuis Giscard, en 1974, Mitterrand n'était pas énarque, Sarkozy n'était pas énarque, mais tous les autres présidents étaient énarques. En fait, il y a un mode de fonctionnement dans l'École nationale d'administration qui est terrible, qui est que de toute façon, c'est malheureusement un des maux, une des plaies des grandes écoles en France, c'est qu'ils ont la vérité révélée sur tout et qu'ils ne peuvent jamais se tromper. C'est terrible, mais c'est vrai. Personnellement, j'aime bien avoir la culture du doute. Je me dis, est-ce que j'ai raison quand je fais quelque chose? Est-ce que j'ai tort? Alors, Mitterrand avait une phrase qui était très amusante sur Jacques Delors, parce que Jacques Delors était quelqu'un qui était incapable de prendre une décision, et qui disait de lui, il hésiterait entre une aspirine et l'euthanasie. Alors, entre n'avoir aucun doute et hésiter entre l'aspirine et l'euthanasie, il y a quand même un juste milieu. Mais c'est vrai, c'est une phrase de Mitterrand sur Delors. Et moi, j'aime bien quand on doute. C'est pas mon mode de pensée, mais faut être franc, c'était quand même quelqu'un d'éminemment cultivé. Qui connaissait l'histoire de France par cœur. Et je pense, ça peut paraître bizarre, mais que pour bien diriger un pays, il faut connaître son histoire, il faut connaître son peuple. Ça, c'est vital. Et surtout, c'était quand même quelqu'un qui avait une envergure, qui savait faire des discours, etc. Bon, il avait une formation d'avocat, ce qui fait que ça aide quand même pour savoir faire des discours. Mais cette pensée unique qui est enseignée à l'École nationale d'administration, c'est que ils ont raison sur tout, même quand ils ont tort.
Il faudra que je pense à te faire entendre une chanson. Ah, je pense qu'à lui, pourtant je l'ai passé la semaine dernière. C'est pas Yvan Dotin qui nous suit aussi, c'est Gilbert Lafaye.
Oui.
Tu connais le président et l'éléphant?
Non, je connais Gilbert Lafaye, mais je connais pas cette chanson.
Ah, tu connais pas la chanson? Mais je l'ai pas programmée. Bon, je salue également Olivier Burette, qui est un des futurs animateurs de Radio Étoile du Cœur.
Super.
Je suis très agréablement surpris.
Ben, très bien.
Troisième question de Yves Accard. Le dogme actuel de la croissance à l'infini est-il la nouvelle tour de Babel idéologique qui nous perdra pour tenter une analogie?
Alors ça, c'est une excellente question, mais qui est très vaste. Alors, je vais y répondre, mais peut-être un peu longuement. On a un gros problème sur la planète qui est l'explosion démographique du tiers-monde. C'est-à-dire qu'on a une partie de la planète qui vit une véritable explosion démographique. On a certains pays qui ont des taux de fécondité synthétique à plus de 5 enfants par femme, et qui sont en général les pays les plus pauvres, alors qu'on souffre d'un vieillissement de la population dans les pays du Nord. Mais le vrai problème est que la population augmentant, les ressources diminuent mécaniquement. On est à la croisée des chemins. Parce que malheureusement, aujourd'hui, si on n'a plus de croissance dans les pays du Nord, on tombe en faillite et on jette une partie de la population dans la misère. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Si on n'a plus de croissance, on peut plus financer les retraites.
Il y a déjà une partie.
Oui, mais si vraiment on n'a plus de croissance, on a une croissance très faible. On prévoit moins de 1% cette année. À moins de 2% de croissance, le chômage
augmente. Pourtant, ça a été le langage de François Hollande.
Oui, mais le problème, c'est qu'une fois qu'on est face aux réalités, on est comme le maçon au pied du mur. Et c'est au pied du mur qu'on voit les bons maçons. Le problème, c'est que Hollande ne peut pas faire de miracle. Il peut pas faire de miracle. On sort de 40 années, enfin on est toujours dans 40 années de déficit budgétaire permanent où on a fait de la dette, de la dette.
Oui, mais est-ce que son discours n'a pas changé là depuis quelques heures?
Ah mais totalement. Mais de toute façon, c'est ce que je décrivais dans le livre. L'idée, c'est que de toute façon, Hollande ou Sarkozy auraient fait à très peu de choses près la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils doivent rendre les mêmes comptes aux mêmes personnes. C'est-à-dire qu'ils doivent dire à Bruxelles, on s'approche des 3% de déficit par rapport au PIB. Donc, soit on augmente les recettes de l'État en augmentant les impôts, soit on diminue les dépenses. Le problème, c'est qu'on peut pas diminuer les dépenses drastiquement et que le système qui marche pas de faire toujours plus d'impôts, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de continuer. Tant qu'on ne s'attaquera pas aux vraies réformes de fond, dont notamment, on y revient, la réforme de l'État, des collectivités territoriales, etc. Et donc, pour y revenir sur la croissance indéfinie, dans les pays du Sud, on a certains pays qu'on appelle les pays émergents, c'est-à-dire les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, qui ont des très forts taux de croissance. En Chine, on tourne à parfois 10% de croissance par an. Alors, pour donner une idée à nos auditeurs, pour doubler la richesse d'un pays...
Nos internautes.
Pour doubler la richesse d'un pays, il faut avoir 100% de croissance. Donc, avec 10% de croissance, on double la richesse en 10 ans. Pendant les 30 Glorieuses, la France avait en moyenne 5% de croissance par an.
Oui, mais il faut comparer ce qui est comparable.
Il faut comparer ce qui est comparable. On n'est plus du tout dans la même optique.
On est bien d'accord.
Mais ce qu'il y a ce qui change tout, c'est qu'aujourd'hui, les pays en forte croissance sont les pays les plus peuplés. La Chine, c'est 1 milliard 300 millions d'habitants ou presque.
L'Inde,
c'est plus d'un milliard.
Facebook,
non. Non, ça dépend parce qu'il y a des pays en croissance et des pays en récession. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois, les Indiens ont un modèle de vie. C'est de vivre à l'occidental. C'est-à-dire, ils veulent vivre comme nous. C'est-à-dire, manger de la viande, etc. Et les ressources de la planète ne sont pas inépuisables. Elles ne sont pas inépuisables. Donc, il faut automatiquement prendre des mesures, mais qui peuvent être à ce niveau-là que mondiales.
Oui, mais nous sommes habitués, nous, les humains, nous sommes habitués à l'abondance, nous sommes habitués à...
Non, nous, des pays riches, nous sommes habitués à l'abondance. Mmh. Mais le monde entier n'est pas habitué à l'abondance.
Il est bien ce homme-là, hein. Il corrige tout de suite, là.
Le monde entier n'est pas habitué à l'abondance. Nous sommes nés en l'abondance. En France, personne ne meurt de faim, et c'est sûr qu'il y a des restaurants du cœur, etc. Mmh. Mais en France, on souffre plus de famine depuis la fin pendant la dernière guerre. Mmh. Mais en France, on souffre pas de famine.
Mmh. Pas encore.
Espérons. Non, mais vu les stocks agricoles, etc., j'espère pas faire preuve d'un optimisme délirant.
On va se faire jeter là. Hein.
Pourquoi?
Quand tu dis, il y a de plus en plus de viens dans Paris. Je sais pas Toulouse, ce qu'est devenu Toulouse, mais dans Paris, il y a de plus en plus de gens qui dorment sur les trottoirs.
Ah mais à Toulouse, c'est pareil.
Qui n'ont plus d'argent, qui n'ont plus rien.
Ah non mais c'est
à Toulouse c'est pareil.
Oui bien sûr, mais dans toutes les grandes villes de France.
Parce qu'on a les restaurants du cœur. Excuse-moi, on a les restaurants du cœur. C'est bien, mais les restaurants du cœur pendant combien de temps encore? Et puis est-ce que sincèrement ça a été quelque chose de positif au départ, peut-être, oui.
Les restaurants du cœur, ça a été fait pour aider des gens dans la nécessité. Mmh. Moi, ce que je préférerais, c'est que tout le monde puisse vivre sans avoir besoin des restaurants du cœur.
Et puis nous parlons comme ça les uns et les autres, parce que nous avons encore nos réfrigérateurs pleins.
Oui, non, mais c'est sûr.
Même si ça commence à...
Mais c'est pour ça que nous, on a une vision, parce qu'on est quand même dans un pays riche par rapport à la moyenne de la planète, on a une vision... J'ai horreur du mot de nanti par rapport à ce qu'on voit de pauvreté dans certains pays du monde. C'est clair, si on voit des pays comme le Pakistan, le Bangladesh ou l'Éthiopie ou le Kenya, c'est sûr qu'on est des gens très riches et qu'ici on ne souffre pas. Mais l'explosion démographique du tiers-monde va créer des déséquilibres, mais irrattrapables, qui vont certainement déboucher sur des guerres, notamment pour l'eau. Parce que l'eau est un...
La guerre de l'eau a déjà commencé depuis plusieurs années.
Et tout ce qui est, toutes les conséquences sont, très souvent les guerres ont des raisons économiques. On a souvent oublié de dire que les guerres entre la France et l'Allemagne, c'était dû en partie pour avoir le charbon de l'Alsace, de Lorraine que l'Allemagne voulait, ou le charbon de la Sarre que la France voulait. J'ai appris un truc terrible la semaine dernière en regardant Arte, la preuve qu'on peut se cultiver en regardant la télévision. C'est que quand Hitler a annexé les Sudètes, c'était pour le charbon marron qu'il y avait dans le territoire où étaient les Sudètes, avec lequel on pouvait fabriquer du carburant synthétique et que l'Allemagne dans son territoire n'avait pas. Je n'imaginais même pas que ça pouvait être une cause économique. Eh bien, en regardant Arte, si. C'est sûr que ça nous change du niveau culturel.
Philippe David, tu annonces et tu n'es pas le seul. Hein. Je veux dire, c'est pas une nouvelle nouvelle, quoi. Si tu as lu Yves Pacalet, L'humanité disparaîtra pour débarras, un bouquin qu'il a écrit en 2006, mais c'est terrifiant, et j'ai le sentiment que nous n'avons qu'une vie, et puis mais non, ça n'arrivera pas, ou alors je serai mort. Tu vois ça, mais c'est apocalyptique. Je reprends le terme de Yves Accard, c'est apocalyptique. On est dans cette situation aujourd'hui.
Mais
personne ne veut en parler.
Ah mais dans certaines régions du monde.
Parce qu'il ne faut pas faire peur aux... À l'humain.
Surtout, ne jamais faire peur. La théorie qu'il ne faut surtout jamais paniquer les foules. Et on y revient, notamment par rapport à la France, c'est que rien ne va mieux que lorsqu'on ne parle pas des choses qui fâchent, on risque pas d'avoir de problème. Mmh. Si on parle que du beau temps, il fait beau, les oiseaux chantent, etc., tout se passe très bien. Mmh. Si on parle des vrais problèmes, alors là, on aurait vraiment des débats. Aujourd'hui, en France, où se trouve le débat?
Et Yul pose la question, les guerres sont toujours des hold-up. Enfin, c'est pas une question, c'est un constat. Tu partages son avis ou?
Pas toujours, mais très souvent.
Ouais.
Très souvent. Je vais te prendre un exemple. Il y a un truc qui m'a marqué la dernière fois où je suis allé en Chine. J'ai visité, c'est Place Tiananmen, le musée de l'histoire de la Chine. C'est absolument fabuleux. Bon, même si les commentaires, c'est en chinois et en anglais, parce que je parle pas chinois. sont très orientés, on va dire ça comme ça, et qui parlent notamment des guerres qui ont humilié la Chine au XIXe siècle, qui étaient les deux guerres de l'opium, dans lesquelles notamment les Occidentaux, et quand on voit la beauté architecturale du palais d'été des empereurs de Chine, l'expédition anglo-française a brûlé un joyau architectural, et je peux dire qu'en tant que Français, j'étais pas fier de voir que mon pays avait fait ça il y a quelques années. Et les guerres sont très souvent dues pour aller prendre les matières premières qu'on n'a pas. Je vais revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, la fin d'une ère, et pas la fin d'une époque. On sort de 5 siècles de domination du monde par l'Occident. On a eu un premier siècle de domination qui était le siècle portugais. Pourquoi ? Parce que les Portugais avaient les plus grands conquérants du monde qui ont découvert la moitié de la planète. Vasco de Gama, Magellan, Cabral qui découvre le Brésil, etc. Ce qui a fait la richesse du Portugal dans ce siècle-là, c'est qu'il maîtrisait 2 choses. Il maîtrisait le commerce du bois exotique par le Brésil. Il faut savoir que le mot « Brasil » en portugais vient du français « le bois de braise » parce qu'ils exportaient un bois rouge qui avait un succès colossal en Europe et qui valait une fortune. Et il maîtrisait un autre marché qui était le marché des épices par le biais du comptoir de Goa en Inde, dans lequel les épices valaient plus cher que l'or au kilo à cette époque. Le Portugal est devenu un pays fantastiquement riche qui est devenu la première puissance du monde alors que c'était un tout petit pays. Le siècle suivant, il a été remplacé, c'est le 17e donc, il a été remplacé par l'Espagne qui, lorsque un Portugais dénommé Magellan, mais qui travaillait pour le compte du roi d'Espagne, a fait le tour du monde, a créé des comptoirs espagnols un peu partout, et où notamment l'Espagne a bénéficié de ce qu'on appelait l'or du Pérou, par exemple. Pourquoi ? Parce que l'Espagne est allée prendre les matières premières. Et donc l'Espagne est devenue la première puissance du monde. Ensuite, il y a eu le siècle français, notamment sous Louis XIV, où Louis XIV fait une politique d'expansion qui a été très dure par contre au niveau financier parce que la France était ruinée, mais où la France a conquis le Canada, les Antilles, a eu un empire gigantesque et qui était le modèle européen. Suite à quoi ? Suite à la défaite de Napoléon et au fait que l'Angleterre a fait la révolution industrielle, l'Angleterre est devenue la première puissance du monde en faisant un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, comme disait le proverbe, c'est-à-dire en prenant le tiers de l'Afrique, la France en avait pris la moitié, l'Inde, qui était un potentiel énorme, bon, des colonies un peu partout, et l'Angleterre avait fait la révolution industrielle, avait les matières premières parce qu'elle avait le charbon, et avait le savoir-faire technique. S'ensuit, là on est au 19e, et la faillite de l'Europe commence avec la Première Guerre mondiale, qui est un cataclysme pour l'Europe, et la Deuxième Guerre mondiale étant la conséquence de la Première. Là, le siècle devient américain, parce que l'Amérique triomphe dans la Deuxième Guerre mondiale, le monde est coupé en deux, le bloc soviétique, le bloc occidental, et le leadership, qui porte bien son nom, du bloc occidental, c'est les Américains. Et là, nous avons un siècle américain. Un siècle américain qui devient proéminent le jour de la chute du mur de Berlin. Parce que quand le mur de Berlin tombe, il n'y a plus 2 superpuissances, il n'y en a plus qu'une. C'est ce qu'on appelait l'hyperpuissance américaine. Et là, on revient au 11 septembre, le 11 septembre 2001, la fin du monde ancien, qui fait que les Américains voient qu'ils ne sont pas invulnérables, et ce qui se passe et qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on arrive à nouveau, on arrive vers à la fin de 5 siècles de domination du monde par les puissances occidentales, parce que le prochain siècle va être chinois. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et le passage de témoin entre l'Occident et la Chine va créer un cataclysme dans le monde. Je ne parle pas de guerre, etc. Parce qu'aujourd'hui, le mode de pensée du monde est un mode de pensée occidental. Culturellement, c'est le rock'n'roll américain, les films d'Hollywood, la pop britannique, etc. Parce que comme il y a quand même une grosse domination culturelle de l'anglophonie...
Même si ça n'a rien à voir, est-ce que les Mayas avaient pensé à ça ?
Alors ça, je ne sais pas. Ouais. Mais j'espère que la fin du monde n'est pas le 21 décembre 2012, sinon il ne reste pas trop longtemps. et donc, le siècle qui commence là va être un siècle chinois. Et tout va changer.
Et chinois, ça commence par CH.
Oui.
Donc on va en chier. Excuse-moi, pour détendre l'atmosphère. Parce que je pense pas, les médias n'en parlent pas de ça.
Ah, mais parce que c'est un sujet tabou. Mais le problème, mais est-ce que quand tu te bats pour être élu, est-ce que tu aurais envie de dire la vérité aux gens et de risquer de perdre ton mandat ?
D'où la raison de l'existence du livre de la rupture aux impostures.
Ben, j'essaye de parler dedans des vrais sujets qui fâchent et des blocages, etc.
Alors, être politique, c'est ça veut dire être menteur patenté, parce qu'on a eu menteur, super menteur, puis super de chez super menteur.
Ah mais, pour se faire élire...
Et c'est pas un juron, hein, êtes un menteur.
Mais pour se faire élire, il faut parfois être prêt à tout. Quand en 1980, je vais prendre deux exemples, un à droite et un à gauche, que mon livre est quand même équilibré, je pense qu'on peut pas dire le contraire. Je tape des deux côtés. Quand en 81, Mitterrand dit que s'il est élu, la France ne passera jamais le cap des 2 millions de chômeurs, il s'y engage,
oui.
Il a jamais démissionné, et qu'il se fait élire, je cite, pour rompre avec le capitalisme, et que 10 ans après, à peine, enfin une dizaine d'années après, il met Bernard Tapie au gouvernement, est-ce que ça, c'est pas un reniement gigantesque?
Non.
Pas du tout. Mais pourquoi Mitterrand a promis tout ça? Parce que c'était sa troisième candidature, c'était la dernière, et s'il perdait en 81, il n'aurait jamais été président.
Sur quoi il s'est fait élire, Chirac?
Chirac, c'est pareil. C'était la fracture sociale.
Ouais.
Trop d'impôts tue l'impôt. Et quel a été son premier geste une fois élu? C'est d'augmenter tous les impôts. Donc, Chirac était dans le même cas que Mitterrand, 14 ans plus tôt.
Il y a une personne dans le studio, elle boit tes paroles.
Merci. C'est que Chirac, c'était son dernier essai, et donc, comme il fallait qu'il se fasse élire, il fallait qu'il promette tout et n'importe quoi. Chirac avait eu cette phrase terrible qu'il avait dit au Baladurien, certainement pour les narguer, il leur avait dit « Je vous épaterai par ma démagogie. » Je vous épaterai par ma démagogie.
Il avait dit ça.
Il avait dit ça. Mais il l'avait dit en public. Alors, il y avait des Baladuriens, Chirac, c'était devant des députés RPR, je crois. Il avait dit « Je vous épaterai par ma démagogie. » Mais là, on était au summum de la démagogie. Quand on disait qu'on allait, parce que le programme de Chirac en 95, c'était, on va augmenter les dépenses pour réduire la facture sociale, en baissant les impôts, et en augmentant les dépenses et en baissant les impôts, on va réduire les déficits.
On est con au point de...
Mais, il y avait un acteur dont j'étais
fan.
Parce
que le capital de sympathie, il y avait un capital de sympathie pour Chirac, un capital de sympathie pour Mitterrand aussi, il y a eu Sarko en 2007.
Mais pourquoi,
qui avait dit, si je suis président dans 2 ans, plus personne... Moi, c'est ce qui m'a foutu en l'air avec Sarko.
Mais un truc terrible. Il y a un acteur que j'adorais, qui s'appelait Louis de Funès, dans un film que j'adore, qui s'appelle Rabbi Jacob. Et quand il est... Non mais, la scène est emblématique.
Oui, je vois.
Là, et quand il est au téléphone, dans sa voiture... Il y a, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, qui est avec lui, qui le prend en otage au départ dans l'usine de, enfin, qui était en otage dans l'usine de chewing-gum pour parler, etc., qui devient président à la fin, Slimane, voilà. Et qu'on lui dit, il y a la grève dans votre usine, et il dit, faites comme d'habitude, vous promettez tout, et je ne donne rien. Et il dit, mais vous faites ça dans votre usine? Et il dit, et le peuple ne réagit pas, il dit, mais le peuple, mais, il est bête, le peuple. Il aime qu'on lui fasse croire des choses, le peuple. C'est peut-être cruel à dire. Mais demain, on rase gratis. C'est une tirade du barbier de Séville. Eh bien, inutile de dire que c'est toujours dans la réalité. On parlait du pain et des jeux, Panem et Cherchenses. Mais le barbier de Séville, demain, on rase gratis, ça marche toujours.
Plusieurs messages sont arrivés. Léag, que je salue et que je suis heureux de retrouver à l'écoute de Radio Étoile du Cœur. Votre invité a-t-il une religion et si oui, laquelle?
Alors, bon, je vais répondre, c'est même si au nom de la laïcité, ça fait partie de la sphère privée, mais je réponds sans aucun problème. J'ai été élevé en la religion catholique, ce qui a laissé des traces...
Personne n'est parfait, hein.
Non, ce qui a laissé des traces chez moi, très certainement. J'ai beaucoup de divergences avec l'Église catholique. Je suis assez attiré par le bouddhisme, pour être très franc, depuis que j'ai fait pas mal de temples bouddhistes lors de mes voyages en Asie. Et... pour moi, aujourd'hui, je pense que le principal problème de l'Église catholique, c'est qu'elle n'a pas su évoluer avec son temps, notamment, par exemple, sur le mariage des prêtres, l'ordination des femmes, etc. Et je suis sûr qu'il y a des forces supérieures, des forces spirituelles, etc. Je suis pas intimement convaincu que c'est celle dont on me parle.
Et quand tu prononces, je t'interromps, parce que souvent le mot spirituel est assimilé au mot religion, ça n'a rien à voir. Nous sommes d'accord.
Ah, ça n'a rien à voir.
D'accord. Non, mais c'est simplement pour avoir ton assentiment.
Par exemple, on dit que quelqu'un qui a beaucoup d'esprit, on dit que c'est quelqu'un de spirituel. Mais c'est pas automatiquement religieux.
D'accord. Non, mais tu sais, les amalgames.
Ah oui, ça peut aller.
Surtout quand ils sont dentaires, très souvent sont
dangereux. Exactement.
Deuxième question de Léa. Que pense votre invité de Marine Le Pen?
Je pense que je suis pas, votre invité a certainement pas lu le bouquin. Je suis pas tendre, pas particulièrement tendre avec elle. Pour moi, Marine Le Pen, c'est le symptôme d'un pays où, dans sa classe politique, il n'y a aucun renouvellement, où ce sont les mêmes qui gardent le pouvoir, et où maintenant on a affaire à des dynasties où les mandats s'héritent. Donc Marine Le Pen a hérité de son père, et ce sera certainement peut-être la petite fille Marion Maréchal Le Pen, qui a été élue députée il y a quelques mois, qui prendra la suite de Marine, bon, même si Marine est encore assez jeune.
Mais au nom de la liberté d'expression dont tout le monde prévaut...
Ah mais pour moi, elle a parfaitement le droit d'exprimer.
Mais souvent j'entends, je lis, surtout sur Facebook, des fois, ouh, c'est une violence, c'est violent, violent. Quand je pense qu'on m'a censuré pendant 30 jours, mais c'est une violence, parfois certains commentaires... ce parti n'a jamais été interdit. Je ne dis pas que je suis pour ou contre.
Ah mais c'est exactement ce que je dis dans
c'est
mon bouquin.
C'est ce que tu dis.
Ce parti, pour moi,
on était fait pour se rencontrer.
C'est le gilet pare-balles du système. Mmh. Enfin, je l'appelle abri atomique du système. Mmh. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a deux partis qui font le pluie et le beau temps en France. L'UMP et le Parti socialiste. D'accord ? Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils disent qu'est-ce qu'il y a comme alternative à part nous ? Marine Le Pen. Donc comme la majorité des Français n'en veut pas, eh bien, on reste UMP ou PS, PS ou UMP. La France n'est pas un pays bipartite culturellement. Les États-Unis, oui. Mais la contrepartie du bipartisme qu'on veut nous imposer, c'est qu'au dernier tour de la présidentielle, on a explosé les taux d'abstention et de vote blanc pour un deuxième tour de la présidentielle. Aux États-Unis, les présidents, ils sont élus avec même pas 50% de votants. Même pas. Parce que comme disent les Américains, démocrate ou républicain, il n'y a pas un gros écart.
Faudrait-il réviser l'élection présidentielle en France, Philippe
David ? Eh bien, très franchement, je crois que quand De Gaulle a fait l'élection du président de la République au suffrage universel, c'était il y a pile 50 ans, c'était en 1962, je pense que De Gaulle...
Mais c'était un renard rusé, De Gaulle. Hein.
Ah, il était très rusé.
Oui.
C'était un politique.
Oui.
C'était un politique.
Oui.
Mitterrand
on aime, on n'aime pas, mais...
Ah oui, non mais, faut être franc, c'est l'homme numéro 1 du XXe siècle en France. Comme Napoléon est l'homme numéro 1 du XIXe. Je pense que c'est pas discutable. L'homme qui a le plus marqué l'histoire de chaque siècle. Au XXe, c'est De Gaulle. De Gaulle, je pense, aimait bien ce côté assez monarchique des institutions. C'est pour ça que lui, président, il fallait que ce soit le peuple qui donne son assentiment. Par contre, De Gaulle avait quand même un très grand sens du panache. Quand en 69...
Il a été capable de partir, de repartir.
Oui. Ouais. Moi, j'estime que...
Oui, mais c'était calculé pour, non ?
Ah non,
parce que les détracteurs de De Gaulle...
Je pense qu'il ne pensait pas perdre.
Non, il pensait gagner.
Je pense qu'il pensait gagner. Mais si en 2005, quand 55% des Français ont voté contre la Constitution européenne, si Chirac avait vraiment été gaulliste, il aurait démissionné. Comme il ne l'a pas fait, c'est donc qu'il n'était pas gaulliste.
Mais pour gagner de l'argent, on ne démissionne pas, monsieur.
Ah, ça c'est clair que...
Tout le monde ne s'appelle pas Chevènement.
Ah, c'est clair que ça, à ce niveau-là, il a un grand mérite. C'est la seule personne que je connaisse qui est démissionnée deux ou trois fois d'un poste de ministre. Alors que j'en connais beaucoup qui tueraient père et mère pour être vice sous-secrétaire d'État.
Et pourquoi a-t-il été ridiculisé? C'est une question comme ça,
non,
qui n'était pas prévue.
Il n'a pas été ridiculisé.
Il
a
pas
fait 5%. 5%, c'est pas ridicule. En 2007, il a fait, en 2002, il a fait 5%. Un peu plus de 5%. C'est pas ridicule. Ça fait plus d'un million de voix. Ça fait 1,5 million de voix.
Message de Léag, très sincèrement, vous auriez dû m'inviter pour cette première émission. Je sais être très très modéré quand cela s'impose, vous tout en étant limpide.
Ben, il faut être limpide et surtout, tout en pensant qu'on peut se tromper, être à mon avis assez convaincu, avoir des convictions. Ça, je pense que c'est hyper important.
Jamais le terme convaincu. Il y a con, il y a vaincu.
Oui, c'est vrai que prise sous cet angle-là mieux vaut-il être vaincu, c'est une bonne question, ça par contre.
Alors ce livre, De la rupture aux impostures, paru donc en mars, en
mars
2012,
ça, oui.
Aux éditions
du Bon d'Arguin.
Oui. Tu peux en parler un peu?
Oui, alors.
On parle rarement des éditeurs.
Alors, c'est une maison d'édition qui est en région parisienne, qui m'a édité.
Non.
Si, mon éditeur.
Dans 95?
Gagné. Qui m'a édité donc sur ce livre qui décrit le paysage politique français. Et j'ai malheureusement été bon prophète parce que j'ai vu ce qui allait se passer et ce qui est en train de se passer et qui continue. Ça démontre en fait, partie par partie, comment le système est verrouillé, pourquoi il ne peut pas changer, et comment est-ce que tout est fait pour qu'en tout état de cause, il ne puisse jamais changer. Aujourd'hui, en France, le pouvoir est confisqué, il n'y a pas d'autre mot, confisqué par une oligarchie. Une oligarchie qui tient tout, les médias, les affaires, la politique. Quand on regarde toutes les affaires politico-financières, etc. qu'il y a eu, on s'est rendu compte que la presse n'était quand même pas particulièrement virulente. Je vais prendre un exemple qui est quand même assez emblématique.
Puisque tu parles de la presse, les bruits courts, et tu sais que les bruits courts, ça s'appelle la rumeur.
Oui.
Les bruits courts que c'est la presse qui aurait porté François Hollande à la présidence.
Alors, on peut pas dire que la presse est...
Toi qui es dans la presse.
Alors, moi j'écris sur un site web, mais je fais ça à titre bénévole, je tiens à le rappeler.
Ça existe encore ça, monsieur?
Oui, ça existe. Oui. Moi j'écris pour le plaisir.
Oui, oui.
Et c'est parce que je considère que l'argent n'est pas la valeur cardinale du monde.
Enfin, il en faut pour vivre. Hein.
C'est clair. Et comme disait l'autre,
si tu en as trop,
il vaut mieux pleurer dans une Rolls que dans une deux chevaux. Et je ne roule pas en Rolls.
Selon toi, est-ce que la presse a été responsable?
Alors, la presse a ouvertement été en grande partie contre Sarkozy pendant 5 ans. Ça, c'est clair.
Faut dire qu'il les avait fait chier, quand même.
Et faut dire qu'il avait quand même commis énormément d'erreurs. Énormément d'erreurs. Que ce soit Jean Sarkozy à l'EHPAD, que ce soit les reniements de campagne, etc. Très franchement, ce que j'avais dit à un journaliste quand j'étais passé suite à un article que j'avais écrit pour défendre François Hollande sur Atlantico, je lui avais dit, Jean Sarkozy à l'EHPAD a fait beaucoup plus de mal à Nicolas Sarkozy que 5 années de couverture outrancière du magazine Marianne. Parce que je pense que ça a été l'erreur cardinale. La presse a été plutôt pour Hollande. Mais il y a quand même une chose qu'il faut retenir du résultat du second tour de la
presse écrite et parlée et télévisuelle. Nous sommes d'accord, la presse dans son ensemble.
Bien sûr. Mais de toute façon, il y avait un sondage qui avait été fait en 2002 qui disait, je crois que 84% des journalistes étaient de gauche en France. 94%, c'était un score brejnevien. Et en fait, Sarkozy a été battu de très peu. De très peu. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas voté pour Hollande. Ils ont voté contre Sarkozy. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que les gens ne croyaient pas les promesses d'Hollande.
Et avaient-ils un choix, les gens, comme tu les appelles, avaient-ils un autre choix?
Ah ben, de toute façon, au deuxième tour, ils n'avaient plus de choix, c'était l'un ou l'autre.
Ouais.
C'est peut-être pour ça qu'il y a eu autant de votes, de bulletins blancs et nuls.
De bulletins blancs et nuls, ouais.
Où on a explosé le record de bulletins blancs et nuls. Parce qu'aujourd'hui, ils ont compris une chose, c'est que, entre une UMP qui est libérale-sociale, et un parti socialiste qui est social-libéral, ben c'est un peu comme disait Jacques Duclos au moment du second tour de la présidentielle de 69 entre Alain Poher et Georges Pompidou, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Mais c'était à peu près la même chose, hein, à très peu de choses près.
Alors j'ai une question qui arrive de Michel, pas le même Michel, il est parti, il écoutera un peu plus tard la fin. Alors attends, ça vient de s'effacer, mais je vais la retrouver. Mélane demande, le Front National n'est-il pas un genre de bouc émissaire qui arrangeait bien les partis? Je pense surtout à Mitterrand.
Ah mais bien sûr que oui, mais c'est exactement ce que j'écris dans le livre. C'est que c'est l'abri atomique du système. L'UMP et le PS disent, si vous voulez pas de nous, il n'y a que le FN. Donc au moins c'est simple. Il n'y a pas d'alternative à part nous, c'est ce qu'on appelle le bipartisme. Et je suis entièrement d'accord avec ce que dit Mélane, c'est la stricte réalité. Et Mitterrand en a joué pour une bonne et simple raison, c'est qu'il avait Mitterrand avait été empêché de prendre le pouvoir pendant des années parce qu'il y avait un parti communiste très fort. À l'époque, un parti communiste totalement inféodé à Moscou, etc. Donc il s'est dit, je vais rendre la monnaie de la pièce à la droite et je vais faire monter le Front National. Faut pas se tromper, hein. Un des proches conseillers de Mitterrand était un ami de la fac de droit de Jean-Marie Le Pen qui s'appelait Guy Pen, P-E-2-N-E, pas Le Pen, Guy Pen, qui avait, on va dire... ménager des entrées à Jean-Marie Le Pen à l'Élysée dans les années 80, mais ça c'est une réalité.
Sarko avait aussi des copains.
Mais de toute façon,
je crois qu'ils peuvent pas s'en passer. De toute façon, ils sont obligés de composer.
Mais de toute façon, non, deux crocodiles fréquentant le même marigot ne se dévorent pas entre eux. On y revient toujours. On est dans la caste dirigeante.
Remarque de Léag, énormément de spécialistes en économie préconisent la chute de l'économie mondiale avant la fin de l'année. Qu'en pense votre invité? L'invité s'appelle Philippe David.
Alors, chute de l'économie mondiale, on peut prévoir qu'il y aura certainement de gros problèmes. On y revient toujours, le problème majeur, c'est le surendettement des pays occidentaux. Dedans vient se greffer une chose. qui est quand même très très importante, c'est que la crise en Europe, on y revient encore, la crise en Europe n'est pas la même crise partout. La crise en Grèce, c'est la faillite de l'État. Ben, c'est logique, en Grèce, personne ne veut payer d'impôts. Mais surtout, ce qu'il y a d'apocalyptique, c'est qu'en Grèce, les plus riches ne payent pas d'impôts. Donc on comprend que les plus pauvres n'aient pas envie d'en payer. Je prends un exemple. Il y a deux catégories de personnes exonérées d'impôts en Grèce. Les armateurs, qui sont les personnes les plus riches de Grèce, et le clergé, qui est multimillionnaire. Donc faut comprendre que le petit retraité grec qui a déjà une retraite de misère, à qui on dit au nom de la rigueur on vous enlève 10% de votre retraite, il se dit maintenant je peux frauder, je vais le faire sans hésiter. C'est quand même totalement compréhensible. À côté de ça, on a la crise espagnole. Alors la crise espagnole, c'est pas un problème de dette publique parce que l'État espagnol a été bien géré globalement. C'est une bulle financière, une bulle immobilière qui fait qu'on a construit des logements en donnant des crédits que les gens n'ont pas achetés. Parce que les gens n'avaient plus les moyens d'acheter. Aujourd'hui en Espagne, il y a plus d'un million de logements neufs invendus. J'étais en Espagne il n'y a pas longtemps, on voit des appartements en vente marqués moins 50%. Je me dis, en voulant se faire plaisir, on peut s'acheter un super appart sur la Costa Brava ou la Costa del Sol à un prix, mais...
Idem pour la Grèce, hein, les îles.
Les îles. Mais certains veulent même, les Allemands avaient même fait cette proposition au début de la crise grecque, qui était quand même légèrement provocatrice, qui avait dit, pourquoi la Grèce ne revend-elle pas ses îles? Alors, c'est quand même assez extraordinaire comme conception. Donc, la crise espagnole est différente. La crise irlandaise, c'est une crise bancaire comme on a connu un peu aux États-Unis avec la crise bancaire des subprimes, etc. Donc, c'est une multitude de crises. Le problème, c'est que toutes mélangées sont une bombe à retardement. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on court vers un collapsus économique généralisé? Faut surtout pas le souhaiter. Parce que si jamais ça arrivait, ça pourrait créer des situations sociales.
Très vulgairement, Philippe, très vulgairement, ça va nous péter à la gueule quand? Parce qu'il ne peut pas en être autrement.
Ça peut péter.
À moins que tu aies des solutions.
Au niveau mondial, j'ai pas de solution. Au niveau français, j'ai des idées de solutions dont je parle un peu dans le bouquin. Au niveau mondial, de toute façon, il faut être conscient d'une chose, c'est que nous sommes tous tellement imbriqués les uns dans les autres, avec la mondialisation, que quand un pays éternue, l'autre sort son mouchoir. Ça, c'est quand même une réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'Allemagne, qui est pourtant le premier bailleur de fonds, continue à soutenir la Grèce et les autres pays en difficulté?
En nous faisant croire que...
Bien sûr. La vraie raison, je vais la donner. C'est que 70%, l'Allemagne a le plus gros excédent commercial du monde pour vendre ses produits. C'est sûr que des Mercedes, des BMW, des Audi, enfin je cite des marques, désolé, des produits allemands, on en voit dans le monde entier.
Tu en as cité deux, la troisième, et tout passera bien au niveau du CSA.
Ça va.
Mercedes?
Oui.
Voilà, ça fait les trois. Hein.
On peut dire Volkswagen, etc. Parce que l'Allemagne est un géant de la production automobile. L'Allemagne, malgré le fait qu'elle ait l'excédent commercial record dans le monde, fait 70% de ses excédents dans la zone euro. Si demain, l'Espagne, l'Italie, la France, la Grèce s'effondrent, et que plus personne en France, en Italie, en Espagne, en Grèce, n'achète de produits allemands, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'économie allemande s'effondre. Parce que si les usines n'ont plus rien à vendre, à exporter, mais tout s'effondre. Nous sommes tous imbriqués les uns dans les autres. Le problème, c'est qu'il faut prendre les bonnes solutions. Et les bonnes solutions sont pas évidentes à trouver, surtout qu'on est dans le cadre d'une crise mondiale avec des crises différentes selon chaque pays. Alors, on va peut-être pas dire aux Chinois qu'il faut qu'avec toutes les liquidités, parce qu'aujourd'hui la Chine est la banque du monde, il faut qu'ils rachètent leurs Chinois fortunés les 1 million de logements qui sont invendus en Espagne ou qui renflouent la Grèce, même s'ils ont déjà commencé en rachetant le port du Pirée, faut quand même le rappeler. C'est extrêmement complexe. Mais par contre, c'est vrai que pour nous, j'ai très peur. Enfin, j'en suis quasi certain, qu'on aille vraiment vers des lendemains qui déchantent. Ça risque d'être...
Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto do mundo e esses passos lentos de agora caminhando sempre comigo já. já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Vejo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, vejo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo.
Vous écoutez Radio Web Radio, Étoile du Cœur, j'ai pas encore l'habitude, ça va viendre. Voilà, jusqu'à 21h en compagnie de Philippe David. Oui, alors on m'a signalé qu'il y avait eu d'autres coupures de pub, mais enfin moi qui m'attendais à 10, 15, 20 coupures de pub, il y en a eu deux. Alors, deux, ça va. Hein, vous en avez plus quand vous regardez, enfin bon. Attention Philippe, c'est Sylvain que tu connais. Sylvain te dit, attention Philippe, quand tu dis imbriquer les uns dans les autres, ça pourrait être considéré comme porno.
Merci Sylvain, ça ne m'étonne pas que tu fasses ce type de commentaire.
Lui aussi, tu l'as rencontré
Non, c'est juste parler au téléphone.
Ouais.
Mais c'est quelqu'un d'éminemment sympathique et je crois que sa femme qui écrit un livre va pas tarder à passer dans le studio.
Oui, au mois d'octobre. Non, à la fin du mois de septembre.
Oui, donc c'est
à la fin du mois de septembre.
C'est demain. Alors sinon, je voulais dire un mot sur cette chanson qui vient de passer.
Oui. Alors, j'ai vu un clip, excuse-moi, justement, parce que j'étais pris, attends, parce qu'il y a des messages un peu partout, puis il y en a qui sont pas forcément sympas, alors rien que pour vous emmerder, je les lirai pas. C'est l'histoire d'un père avec son fils, ou
c'est un hommage
du père.
La chanson, c'est un chanteur brésilien qui est hyper connu dans tous les pays hispanophones et lusophones, enfin surtout lusophones au départ, comme il est brésilien. Qui a vendu plus de 100 millions de disques. C'est un chanteur mythique et moi j'ai eu la chance de le découvrir quand j'allais au Portugal il y a une quinzaine d'années. Et là-bas il est surnommé O Rei, le roi, parce que c'est un chanteur, auteur, compositeur, interprète. Et cette chanson, Meu querido, meu velho, meu amigo, en portugais ça veut dire mon chéri, mon vieux, mon ami, et c'est une chanson en hommage à son père. Et je pense que c'est la plus belle chanson en hommage à un père qu'on puisse avoir. La deuxième est en français, c'est Mon vieux de Daniel Guichard. Mais j'ai choisi celle-ci, pourquoi ? Parce que personnellement, je suis très attaché à la diversité culturelle. Et je ne supporte plus ce monde où tout doit être en anglais, tous les films doivent être des films d'Hollywood, etc. Moi j'ai besoin de diversité. Et au niveau de la diversité culturelle, ce qui me fait du bien, ce qui me fait du bien quand je vais dans des pays d'autres cultures, c'est que j'arrive à découvrir d'autres chanteurs, d'autres musiques, d'autres films. Et je dois avouer que j'ai pris une véritable passion pour la musique latine et la musique brésilienne, mais pas du tout celle qu'on entend sur les radios en France quand il en passe. C'est beaucoup plus du Roberto Carlos, etc. Par exemple, pour nos internautes qui veulent aller sur YouTube, vous tapez Roberto Carlos, alors vous allez voir les
coups francs. Ah, il y en a un paquet, hein,
c'est bon. Oui, mais vous allez voir les coups francs du footballeur Roberto Carlos qui n'a aucun lien aucun rapport avec lui. Mais vous marquez Roberto Carlos, son vrai nom c'est Roberto Carlos Braga, et vous avez une quantité de chansons extraordinaires qui sont des mélodies absolument sensationnelles. Et cette chanson a des paroles sublimes.
Message de Mélane, on va peut-être avoir une tempête solaire, ce serait prévu pour le 21 septembre, d'après la NASA, tout va peut-être péter avant. Sourire.
Oui, 21 septembre, c'est une mauvaise date pour les Toulousains parce que ce sera l'anniversaire, les 11 ans de l'explosion d'AZF.
Pourquoi ça a mis tant de temps Qu'est-ce qui s'est passé là encore? Il y a eu des...
Je sais pas. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que j'étais pas à Toulouse ce jour-là,
ouais,
mais que ma famille y était et que j'ai rarement eu aussi peur de ma vie.
Jonathan écrit, lui, moi je n'ai eu aucune coupure. Ustream, c'est sous Firefox. Il y a les pubs qui plantent. Il y a, moi, je n'ai eu aucune coupure publicitaire. Donc, Firefox, il faudra peut-être qu'on regarde un peu plus avec Grégoire David.
Plus en détail. Oui, mais là, c'est lui le spécialiste, c'est pas moi.
D'accord.
Même non, si nous sommes homonymes.
Jonathan est informaticien, donc s'il n'a pas eu de... Mais tout ça va s'arranger. On ne peut pas avoir du parfait du premier coup.
Mais ça marche très bien.
Très exigeant. Très, très exigeant. Vous avez raison de l'être. Nous essaierons d'être à la hauteur. Tu écris page 37, François Hollande est-il charismatique? François Hollande peut-il tirer un pays qui va mal vers le haut? François Hollande peut-il donner un espoir aux Français ou n'ose-t-il plus demander de les faire rêver? On n'ose plus lui demander de les faire rêver. Pour ces questions, poser ces questions, c'est y répondre. Je rappelle que ce livre a été écrit avant l'élection présidentielle.
Absolument, juste avant.
Et le 6 mai 2012.
C'est ça. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a qu'à regarder une chose. C'est la cote de popularité de François Hollande, si peu de temps après son élection. Jamais un président n'a été aussi impopulaire, aussi peu de temps après, alors que, c'est terrible à dire, mais il n'a pratiquement pris aucune mesure d'envergure. Ce qui prouve que, ce que je disais tout à l'heure, est la réalité. C'est pas Hollande qui a été élu, c'est Sarkozy qui a été battu. On a vu le même cas de figure en 80, où c'est plus Giscard qui avait été battu, que Mitterrand, pardon, qui avait été élu. Et aujourd'hui, Hollande, que peut-il proposer aux Français? Il dit, je vais relever le pays d'ici 2 ans. C'est ce qu'il a dit pas plus tard qu'avant-hier. Mais qui peut croire que dans 2 ans, on aura 1 million de chômeurs de moins et 100 ou 200 ou 300 milliards d'euros de dettes de moins? Personne. Parce qu'on ne se donne pas les moyens pour trouver les solutions. Le problème, c'est que si on se donne les moyens, ce sera fondamentalement impopulaire. Et que si c'est fondamentalement impopulaire, c'est très dangereux pour les députés qui voudraient être élus dans 4 ans et demi. Donc, on ne le fera pas jusqu'au jour où on va rentrer dans le mur. Mais là, par contre, ce sera beaucoup plus douloureux que si on avait fait les réformes avant.
Mais y a-t-il eu de la part de François Hollande des dissimulations, des mensonges politiques, mais des impostures?
Mais bien sûr, mais toute la campagne a été faite d'impostures. Quand François Hollande promettait qu'il allait revenir sur la retraite à 60 ans, mais personne n'en croit un mot. Alors, il est revenu pour une toute petite catégorie. Toute petite catégorie de gens, ceux qui avaient commencé à travailler à 14 ans, je sais plus.
Alors, mais que réponds-tu à ceux qui te rétorqueront? Mais attendez, ça ne fait que 3 mois, on ne peut pas tout faire en même temps.
Alors,
il faut rattraper des dizaines d'années de...
Alors,
c'est leur langage actuellement, nous sommes d'accord.
Mais c'est
pas... Et justement, est-ce que... Attends, je n'ai pas fini ma question. Est-ce que dire, de la part de ceux de droite, de dire... De ceux de gauche, pardon, de dire... oui, mais nous avons un héritage, machin, truc... Il ne faudrait pas mieux de se la fermer et d'agir avant de... Ça sert à rien de taper sur Sarkozy. Il n'est plus président. Ça ne sert à rien de taper sur Chirac, il n'est plus président.
Alors l'héritage, c'est une constante en France.
Oui.
Depuis 81, c'est-à-dire suite au premier choc pétrolier, au départ, quand ça n'allait pas avec Mitterrand, c'était l'héritage de Giscard. Après, quand ça a été Chirac, bon, il n'a pas trop critiqué Mitterrand. Et ensuite, bon, quand c'était Sarkozy, c'était l'inaction de Chirac pendant 12 ans. Et ensuite, là, c'est l'héritage Sarkozy. En France, on a un problème majeur. Et je vais prendre ça sous forme de boutade. Sous Mitterrand, quand ça allait pas, c'était la faute... Alors que sous Giscard, quand ça allait pas, chronologiquement, c'était la faute du pétrole. Parce qu'il y avait les 2 chocs pétroliers. Sous Mitterrand, quand ça allait pas, c'était la faute du dollar. Parce que c'était l'Amérique de Reagan qui faisait monter le dollar, et donc on payait le pétrole plus cher, donc ça allait pas. Et depuis que Mitterrand a quitté le pouvoir, depuis Chirac, quand, comme ça ne va pas en France, c'est la faute à la mondialisation. Ce qui est très facile. En France, c'est jamais de notre faute à nous. Nos politiques n'ont aucune responsabilité, mais si ça va mal.
Tu ne vois pas un politique demander pardon, disons, je me suis planté, je me suis gouré, je m'excuse, je pensais que... mec qui fait ça, est-ce que je suis foutu pour la politique future.
Est-ce que je peux te citer une phrase de Barack Obama un an après son élection? Je vais la faire en version originale, je vais la traduire. Je ne sais plus à quel sujet, il dit « I screwed up ». Alors, un président français, ça veut dire, en argot américain, ça veut dire en fait « j'ai merdé ». Est-ce qu'on imagine un président français dire un jour comme ça à la radio « j'ai merdé » Déjà, c'est impossible. Et quand Obama a dit « I screwed up », quand j'ai entendu ça, je me dis « non, c'est pas possible qu'un président parle comme ça ». Et pourtant, c'est vrai, on n'imagine pas. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, le principe de la démocratie, c'est qu'il y ait des pouvoirs et qu'il y ait des contre-pouvoirs.
Peut-on imaginer qu'un jour François Hollande se dise, nous dise « mais non, non, on s'est trompé ». C'est trompé, mais j'avais pas d'expérience.
Non, mais non, il le dira jamais. Il utilisera, il utilisera ce que Mitterrand, par exemple, avait dit sur le chômage. Il avait dit, sur le chômage, on a tout essayé. Mais il a pas dit, on a échoué. Il a dit, on a tout essayé. Mais il fallait rajouter, et ça n'a pas marché. Mais, en France, les politiques ne peuvent pas se tromper. C'est impossible. Et au pire, s'ils se trompent, ils sont au pire responsables. Mais jamais coupable.
Ce livre, qui est un petit livre par le nombre de pages, mais très dense par le développement que tu y amènes, se termine quand même mal. Que des raisons de désespérer.
Oui. Mais ce que je disais juste avant la précédente coupure, c'était en fait...
Interruption, monsieur.
Interruption, pardon.
Musicale, monsieur.
Musicale.
Coupure.
C'était que...
Ah, écoute, il y en a un qui écrit, c'est où? Cette émission est parfaite. On y parle de choses que la télé officielle n'aborde même pas. Longue vie à Étoile du Cœur.
Ah ben merci, ça fait très plaisir. Mais on reviendra avec plaisir pour organiser des débats ou quoi que ce soit, mais sans aucun problème. Parce que je crois que c'est notre devoir de citoyen,
d'informer,
de médias, d'informer et de parler des choses dont on ne veut pas parler.
Surtout que vous pouvez. Pour l'instant, il n'y a pas de standard, hein, ça coûte très très cher, et puis on n'a pas beaucoup de moyens financiers. Mais c'est se dire, rappelez-vous le poème du début, « Tu seras un homme, mon fils », surmonter les épreuves, et puis dire « je fais, j'agis ».
Ah oui, mais exactement, mais il faut soulever les vrais débats. Comme je te disais, c'est la faute à la mondialisation. Je peux te prendre deux chiffres qui vont faire peur. Aux Pays-Bas, enfin non, qui devraient faire plaisir au contraire. Aux Pays-Bas, le taux de chômage depuis des années, il est à 5%. C'est-à-dire situation de plein emploi pratiquement, à tel point qu'on a licencié les fonctionnaires de Pôle emploi. Et oui, il n'y a plus de chômeurs. En Belgique flamande, le taux de chômage, je crois, est à 3,5%. Les Belges, ils vivent la mondialisation. Comme les Français, ils font partie du même marché, le marché unique européen, comme les Allemands, comme les Espagnols, les Suédois, les Américains, les Australiens, les Japonais et les Argentins. D'accord? Comment font les Pays-Bas, les Hollandais et comment font les Belges néerlandophones pour avoir 5% et 3,5% de chômage? Est-ce qu'en France, on est incapable de trouver des solutions pour créer de l'emploi? Le problème, c'est qu'on y revient toujours. Quand ça ne va pas, ce n'est jamais de notre faute.
Dans le domaine d'activité qui est le tien...
Mais je vais te prendre un exemple. Mais alors, un exemple emblématique. On nous dit, par exemple, en Belgique...
Et qui ont
on les met, bah, toute la caste dirigeante.
D'accord.
Politique, médias, etc. En France, on avait, il y a 50 ans, des ports qui étaient très performants. Ils ont été tués par le monopole syndical de la CGT, qui, à coup de grève à répétition, a dissuadé tous les fabricants de travailler, les importateurs et les exportateurs de travailler avec les ports français. À tel point que l'an dernier, le Beaujolais nouveau est parti par le port d'Anvers, en Belgique, et plus par les ports du Havre ou de Marseille. D'accord? Dans la mondialisation, ça veut dire plus d'échanges. Comment, aujourd'hui, je vais prendre un seul exemple, Rotterdam ou Anvers, seuls, font plus de trafic de containers que tous les ports français réunis. Pays-Bas, 14 millions d'habitants, Belgique, 10 millions d'habitants. Alors, plutôt que de dire, c'est les Belges sont des salauds, ils prennent le travail des Français, ou les Hollandais sont des salauds, ils prennent le travail des Français, il faudrait peut-être mieux se poser la question, moi c'est ce que je soulève dans le livre, pourquoi est-ce que ça va pas chez nous? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça s'améliore chez nous?
Autant pour moi, Philippe, merci de le rappeler. Ce livre, écrit par Philippe David en avril 2012, a pour titre « De la rupture aux impostures », « De la rupture aux impostures », publié aux éditions du Banc d'Arguin. Absolument. On le trouve facilement à la Fnac, dans les petites librairies. Alors, les FNAC, souvent la Fnac c'est bien, mais demandez à votre libraire du quartier.
Les libraires traditionnels, il est sur tous les sites de commande. Alors, on peut l'avoir sinon sur le site web de la Fnac, sur le site web d'Amazon, etc. Il est référencé, il a un ISBN, etc. Il y a aucun problème.
12 euros. Hein.
Oui, absolument.
12 euros.
C'est ça.
Beau papier, belle qualité de papier.
Non, on a fait une belle couverture.
Etc. Oui,
il y a même ma photo en couleur dans la quatrième.
Oh, sur la quatrième de couvre. Mélane écrit, travailler à 17 ans pour avoir une retraite à 60, attention, les statuts sont différents. Si vous avez travaillé dans la métallurgie, par exemple, dossier sur les retraites à l'heure, oui ou non?
Oui, c'est vrai, mais ça c'est une chose, une fois de plus, où on n'a jamais voulu prendre en compte la pénibilité dans le calcul des retraites. Parce que personne ne considère que la pénibilité, alors personne n'arrive à se mettre d'accord entre le patronat et les syndicats sur la pénibilité. Le problème en France, c'est qu'on a... On a des syndicats qui représentent rien, même pas 10% des salariés, et on a un patronat qui ne représente le MEDEF, pardon, que le grand patronat. Les PME sont complètement oubliées du patronat français. J'avais écrit d'ailleurs un article récemment sur Atlantico dans ce domaine, suite à l'université d'été du MEDEF. Et tant qu'on ne prendra pas en cause, évidemment, quelqu'un qui a travaillé, je prends un exemple, il y a des régimes spéciaux qui sont très déficitaires, parce que maintenant les gens meurent les uns après les autres, les régimes spéciaux des mineurs, par exemple. C'est sûr que mineur, c'est un des métiers les plus durs qui ait jamais existé. Mais évidemment, quand on a travaillé à la mine, on doit pouvoir partir plus tôt en retraite que quelqu'un qui a été dans un bureau à faire 9h midi, 14h, 18h. Ça me paraît tout à fait logique. Mais le problème des retraites, on y revient toujours, c'est que si on avait fait les réformes à temps, on ne serait pas aujourd'hui au pied du mur. Mais une fois de plus, il ne fallait pas mécontenter les électeurs potentiels. C'est là le vrai problème.
Alors je souris tout en t'écoutant et je lis les messages. Jean-Christophe, il me dit « Oh, cette webcam, de la façon dont elle est mise, la bibliothèque, elle est en tour de Pise, mais ça me plaît bien, c'est original. » C'est vrai que toi, tu ne peux pas voir.
Non, tu peux pas voir. Je trouve.
La bibliothèque des livres, ça fait tour de Pise, mais j'aime bien. Alors, j'en suis où ? Oui, Yul, ils sont à l'écoute, très très à l'écoute. Il ne faut pas oublier que le port de Rotterdam est entièrement automatisé, seulement 3 types pour faire fonctionner ce géant.
Exactement. Alors ça, quand on voit fonctionner le port de Rotterdam, c'est extraordinaire. Les containers sont déchargés automatiquement, c'est mis par des trucs téléguidés, c'est extraordinaire. Franchement, c'est un port fabuleux. C'est le premier port en Europe, un des premiers du monde, et le premier port de transbordement du monde, par contre, c'est Singapour. De mémoire, en occupé équivalent 40 pieds.
Faisons que pendant quelques instants, il nous reste une dizaine de minutes, même pas, 5 minutes, un peu de politique fiction.
Oui.
Hollande, il va rester
jusqu'en 2012.
Ouais.
Du 17, pardon.
17, oui.
Bon, mon avis, oui.
Oh, c'était un lapsus.
Lapsus, oui. 2012, il reste pas longtemps. Mmh. Non, je pense qu'il restera jusqu'en 2017, oui. De toute façon, il a tous les pouvoirs. Il a l'Assemblée, majorité absolue. Il a le Sénat, majorité absolue. Il a 21 régions sur 22. Il a les deux tiers des conseils généraux, donc je pense qu'il terminera son mandat, oui. Je le pense fondamentalement. De toute façon, moi je souhaite une chose, hein, c'est qu'il réussisse, qu'il y ait 2 millions de chômeurs de moins et 300 milliards ou 500 milliards de dettes de moins. Mais malheureusement, pour arriver à de tels résultats, il faudra s'en donner les moyens. Et changer surtout les méthodes qui n'ont pas marché depuis des années.
Un message de Astrid, non pas par Facebook, mais par étoiledducœurgmail.com. Peut-on vraiment tout prévoir ? Faut-il que l'homme... Est-ce que l'homme n'aurait pas oublié que tout lui échappe et que les désastres qui semblent en effet inévitables proviennent de causes d'une autre dimension, divine, énergétique, etc. ?
Ça, je sais pas. Ce que je sais, en tout cas, c'est que les politiques suivies par les humains et par les entités, c'est-à-dire les nations, les groupes type Union européenne, l'organisation mondiale du commerce, etc., influent massivement sur la vie des hommes. Massivement. Même si on ne s'en rend pas compte. Après, malheureusement, il faut réguler un minimum. Et moi qui suis plutôt, c'est moi qui suis plutôt libéral qui dit qu'il faut réguler un minimum. Un minimum de règles.
C'est indiscret de te demander pour qui tu as voté ou pour qui tu n'as pas voté.
Bien sûr, je peux le dire. Au premier tour de la présidentielle, j'ai voté blanc. Et au deuxième tour de la présidentielle, je le dis aussi, j'ai voté Sarkozy.
Ça s'appelle avoir des couilles, monsieur, ça.
Ben,
on n'est pas forcément d'accord avec toi, mais...
Mais
attends, tu vois ça Non, mais vraiment, jamais un truc comme ça, ça se dit pas.
Non, mais moi, j'assume ce que je
dis. C'est pas politiquement correct.
Mais je supporte pas le politiquement correct. Mmh. Moi, c'est pour ça, j'assume ce que j'ai fait.
On s'est bien rencontrés. Alors.
Oui, j'assume ce que j'ai fait. Au premier tour, j'ai voté blanc parce que de toute façon, personne ne m'inspirait. T'as vu dans le bouquin, je pense qu'on peut dire que personne ne m'inspirait. Au deuxième tour, je me suis dit, bon, je pense quand même que pour faire des réformes, Sarkozy, qui n'aura aucune chance d'être élu en 2017 parce qu'il n'aura pas le droit d'être candidat, et oui, un président de la République est cantonné à deux mandats. Ce serait bien d'ailleurs de cantonner à deux mandats consécutifs tous les mandats électifs.
Et pourquoi pas faire 10 ans d'un coup? Une seule fois?
Non, je préfère 5 ans. Hein? Franchement, non. Ou alors, on revient, ou alors,
faites
ou alors.
Pas la gueule,
non, non, ou alors on revient au septennat non renouvelable. Hein? Mais ça fait quand même un changement. Mais moi, je suis, très franchement, je me suis dit, bon, comme c'est pour ça que je suis pour déjà, je suis pour l'interdiction totale du cumul des mandats. Uh-huh. Et deuxièmement, pour la limitation des mandats dans le temps. Un homme politique qui est sûr de ne pas pouvoir être réélu, il aura du courage et il fera la politique pour laquelle il a été élu.
Et j'espère que vous êtes toujours branché sur Étoile du Cœur, cette nouvelle web radio qui voit le jour aujourd'hui, 11 septembre 2012. Question de Léag. Nous sommes le 11 septembre 2012. Que pense votre invité de la version officielle américaine de 2001?
Alors, la version officielle américaine, il y a eu beaucoup de débats sur le 11 septembre. Ce qui est sûr, c'est que à l'époque, l'administration Bush a été très mauvaise sur un domaine, c'est qu'a priori les services secrets français, qui sont quand même, il faut le reconnaître quand notre pays a des mérites, très opérationnels et très bons, avaient prévenu les autorités américaines que des détournements d'avions se préparaient, mais chose que les Américains ont dit, les Français racontent n'importe quoi, etc. Ça, je pense que vraiment, ils n'ont pas été bons. Ils n'ont vraiment pas été bons dans ce domaine, parce que quand il y a un doute, ça s'appelle le principe de, même si je suis contre le principe de précaution dans l'économie, quand il y a un doute comme ça, on met en place le principe de précaution. On voit, surtout, la France, c'est quand même pas, les services secrets français, c'est pas des rigolos, c'est des gens très compétents, qui ont déjoué beaucoup d'attentats en France. Et donc, ils auraient mieux fait de les écouter. Bon, par contre, je vais pas tomber dans le révisionnisme à la Messan, etc. Pour moi, ce qui s'est passé le 11 septembre est purement cataclysmique, apocalyptique, horrible.
Est-ce que tu as entendu parler de William Rodriguez?
J'avoue, jamais.
William Rodriguez était le concierge du VTC.
Oui.
Et j'ai eu cette chance de l'interviewer pendant 3 heures.
Ah oui?
Et ça pose question quand même. Ou alors cet homme est à la solde des services secrets.
Je sais pas.
Est-ce que tu as entendu parler de Webster Tarpley?
Jamais.
Mais non, ces gens-là ne passent pas dans les médias en France. Ou si peu.
Non, j'ai jamais entendu parler ni de l'un ni de l'autre.
Je ne sais pas si on saura vraiment la vérité concernant le.
Non, mais de toute façon.
Le 11 septembre. Il y a eu des thèses complètement débiles de chez débiles. Parler de soupes volantes d'extraterrestres.
Oui, mais ça, les gens peuvent raconter.
Non, mais on rigole pas quand il y a 3000 morts.
Ça, moi, je rigole pas non plus.
Faut rester quand même dans le sérieux et dans l'enquête d'investigation. Tu vois. Mais quand tu écoutes Webster Tarpley, quand tu écoutes William Rodriguez, mais si il a vendu du bouquin, pourquoi pas?
Ah, mais
il a eu au moins le mérite de porter l'attention sur le problème.
Alors, moi, il y a une. C'était Colin Powell, l'ancien secrétaire à la défense de Bush, qui avait écrit dans ses mémoires, il avait dit qu'il n'avait jamais eu aussi honte de sa vie que quand il avait dû aller dire à l'ONU qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, parce qu'il savait purement qu'il mentait purement et simplement. Mais il avait raconté en ses mémoires une chose terrible, terrible. Et moi qui aime l'Amérique et le peuple américain, ça m'avait vraiment fait mal aux tripes, et surtout si Colin Powell le raconte, c'est que c'est pas de la roupie de Sansonnet. Il avait dit que le 11 septembre, a priori, certains néoconservateurs américains à la Maison Blanche...
C'est la Webster, la version de Webster.
...trinquaient en disant, maintenant, on a les arguments pour attaquer l'Irak. Et inutile de dire que quand on voyait ces corps qui se jetaient des tours, etc., je citerai pas les noms des néoconservateurs, mais j'ai...
Les néocons, ils les appellent.
Les néocons, qui portaient très bien leur nom, d'ailleurs. A priori, dans le tas, il y avait... Enfin, je vais pas citer de nom pour pas qu'on ait d'ennuis, mais c'était ce qu'on appelait les faucons de l'administration Bush qui trinquaient en disant « là, on a l'argument pour attaquer l'Irak ». Et ça, quand on voit le cataclysme qui a été ce jour, vraiment, de telles actions sont vraiment répugnantes.
Tu parlais de tous les pouvoirs pour François Hollande tout à l'heure, une réflexion de Mélane qui dit « mais tous les pouvoirs égale la pensée unique ».
Ah, mais la pensée unique, c'est le mode de pensée en France depuis des années. C'est ça la réalité. On a une politique, on peut pas en faire une autre. Donc, moi qui écris souvent sur le sport, il y a une théorie en sport qui dit on ne change pas une équipe qui gagne. En France, on ne change pas des méthodes qui échouent. Bah, c'est un peu la même chose.
C'est pas mal. C'est de toi ?
Oui.
Dépose-le. Hein.
Alors, c'est
enregistré.
Je la disais en privé régulièrement, mais on ne change pas des méthodes qui échouent.
Youl pose la question, ne devrait-on pas considérer l'évolution des sociétés sous l'angle de la thermodynamique ?
Alors là, je ne sais pas ce que c'est que la thermodynamique, si ce n'est la dynamique de la chaleur. Là, je ne sais pas, donc je ne peux pas répondre.
Ok, je regarde. Non, mais voilà, pour l'instant, bon, écoute, c'est les deux premières heures. Tu as choisi une dernière chanson. Et alors là, c'est ton choix m'a beaucoup étonné. Je la connaissais, mais pas trop mon style musical, mais il faut apprendre à faire plaisir à celles et à ceux qu'on invite. Pourquoi le choix de Claude François ?
Parce que déjà...
Et tournez pas le bouton, les mecs, hein.
Non. Bah, déjà, c'était quand même un très grand artiste, très populaire. Mais c'est surtout une chanson de lui qui est pas du tout connue, qui était dans son dernier album, qui s'appelle Eve. C'était un rythme disco et c'était une chanson dont les paroles ont été écrites par un très très grand parolier français qui s'appelle Pierre, enfin qui s'appelait parce qu'il est décédé, Pierre Delanoë. Et cette chanson, c'est un hymne aux femmes. Et j'ai choisi cette chanson pourquoi ? Parce que quand je vois tout ce qu'on, le grand, on parlait tout à l'heure d'Isabelle Caro, le grand bond en arrière qu'on a dans le monde entier sur les femmes, je vais prendre deux exemples. Juste avant sa mort, a priori, Claude François préparait une tournée au proche au Moyen-Orient, où il était un artiste connu, parce qu'il était né en Égypte, etc. Aujourd'hui, quand on voit des pays comme l'Iran ou l'Afghanistan, où les femmes étaient en mini-jupe, il y a 45 ans, et où maintenant elles sont en tchador ou en burqa, quelle régression. Quand je vois dans la campagne présidentielle américaine, un sénateur du Missouri qui ose dire qu'une femme violée ne peut pas tomber enceinte, je me dis qu'on vit à ce niveau-là une régression, mais colossale, mais qu'on pouvait même pas imaginer il y a encore 30 ou 40 ans. Et comme je trouve que c'est une belle chanson et qu'elle n'est pas connue et que j'aimais beaucoup Claude François, c'est peut-être pas ton style musical, mais c'était un très grand artiste.
Oui. Non, mais je déconne.
Je me disais que ce serait un bel hommage rendu aux femmes parce que faut écouter les paroles, c'est Ève, réalité ou rêve.
Tu sais, souvent les animateurs de radio ou de télévision disent, oh, cet artiste, moi, de temps en temps, faut savoir déconner aussi.
Bien sûr.
Parce que c'était un sacré professionnel.
Ah non, c'était. Je l'ai pas connu personnellement.
Tête de con, mais alors sacré professionnel.
Et il paraît qu'il avait un.
Mais il était vraiment tête de con. Je peux te dire, j'ai fait deux galas avec lui. Moi, personne m'attendait. Il y avait 40 000 personnes une fois à Andernos, dans le stade de football d'Andernos. Une vraie tête de con, ce mec-là. Mais vraiment, l'horreur, le chez l'horreur, quoi. Mais quel showman, quoi. Avait tout compris.
J'ai un de mes salariés qui l'avait vu en spectacle quand il était gamin et qui m'a dit, j'étais pas fan, je l'aimais pas particulièrement, mais quand on le voyait sur scène, c'était quelque chose d'extraordinaire.
J'ai eu cette chance-là.
Ah ben, super.
Des légendes.
Mon cher Philippe, tu as fait carton plein, si j'ose m'exprimer ainsi. Camille Armand te dit bravo pour les femmes, Philippe. Il y a du boulot aussi pour l'avenir. Mélane, super du clo-clo, c'est chouette. Jonathan qui écrit, moi qui n'aime pas la soupe, je viens de me taper le film Clo-Clo. Qu'est-ce que c'était bien. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, monsieur?
Ah bah que j'ai vu le film Clo-Clo en avant-première à Toulouse. J'ai même discuté avec Florent Milvaux-Siri, qui est charmant, qui est le réalisateur, et c'est vrai que c'est un très 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 bon film. Avec un Jérémy Régnier qui est impressionnant. Mmh. Je pense qu'on pourrait pratiquement le marier avec Marion Cotillard dans La Môme Piaf.
C'est dur la fin de Claude François.
Quand on voit ce film, c'est un personnage de paradoxe.
L'acteur est prodigieux.
Ah, l'acteur est prodigieux. Ah, il est prodigieux.
Mais je pense que ce film, je l'ai vu aussi, hein, je pense que ce film reflète parfaitement qui était Claude François.
Mais toi qui l'as connu, c'est sûr que...
Oh, je l'ai connu deux fois.
Hein, oui. Mais qu'il a vu à l'œuvre, voilà, c'était quelqu'un qui pouvait être aussi odieux que généreux. Hein. C'est ce qu'on voit dans le film. Il y a un de ces musiciens qui est paniqué parce qu'il se fait virer, et l'autre qui lui dit, mais t'inquiète pas, moi il m'a viré 5 fois, la dernière il m'a offert une montre Cartier. Alors quand on connaît le prix d'une montre Cartier, c'est quand même qu'il avait quand même une certaine générosité. Et en plus c'est un artiste pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que, comme le disait, je sais plus, c'était Confucius ou Lao Tzu, l'enfance c'est le point d'eau, on y revient toujours. Et moi, c'est les années de mon enfance, les années 70, les années où il y avait Clo-Clo, Johnny, Sardou, Gérard Lenormand, etc. Où les films de Funès, Delon, Belmondo et compagnie.
C'était mieux avant?
Oh oui. À l'époque, le cinéma français s'exportait infiniment plus qu'aujourd'hui. Alors sûr que là, il y a des gros succès comme Intouchables, qui bat les records de films français en exportation.
Cuvier qui a déclaré qu'il n'en revenait pas, que c'était un miracle.
Ah mais c'est un bon film, moi je l'ai vu, j'ai bien aimé. Hein. Mmh. C'est un film bien, c'est un film populaire. Mmh. J'avais bien aimé, qui avait fait encore plus fort nombre d'entrées, j'avais bien aimé Bienvenue chez les Ch'tis aussi, qui était un film amusant, c'était un film sympathique.
Mmh. Moi, j'ai pas un côté un peu misérabiliste.
Non, je pense pas. Non, je pense que les acteurs surjouent pas.
Ouais.
Je pense que
les acteurs sont...
Les acteurs sont très bons.
Oui, et puis on voit que Cluzet... Après de bonnes leçons de paraplégique, hein.
Ah oui, il a
vachement travaillé ça.
Là, franchement, il est très bon. Là, franchement. Plus elle est très bon, si est très bon. Ouais. Les femmes qui jouent, alors j'ai oublié les noms, les actrices, désolé, sont très très bonnes aussi.
C'est un... Mais c'est normal que les femmes soient bonnes.
Oui.
Mon cher Philippe David.
Ou que la musique soit bonne aussi, comme disait Aznavour.
Est-ce que tu as été voir les Kairas? Non, c'était...
Non.
Jean-Jacques Goldman. Non. Moi, tu m'as épaté tout à l'heure. Pendant qu'on était en train de faire la mise en place, je te passais quelques intros, comme ça. Ah, il avait pas 3 mesures. Est-ce que tu aimerais être président de la République?
Ah non, surtout pas. Non, surtout pas. Non, ça jamais fait partie des rêves de ma vie, non. Ça jamais.
Youl écrit, Philippe David président, je vote pour toi, je vote pour lui. Et moi ministre de la Culture.
Bon, déjà, il va falloir avoir 500 signatures d'élus, et ça, c'est pas gagné. Comme je les égratigne pas mal dans le bouquin, ça m'étonnerait qu'il y en ait 500 qui signent pour moi.
Laissons-leur faire leur sale boulot. Parce que c'est un sale boulot quand même. J'ai pas de compassion, hein, vraiment.
Mais
c'est un sale boulot. Je sais pas qu'est-ce qui peut pousser un homme ou une femme à donner toute sa vie à la politique.
Mais c'est...
En reprenant le terme original, la vie de la cité.
Oui.
Comment un homme ou une femme peut s'engager toute une vie?
Non mais...
Toi qui les connais un peu.
Enfin, je les connais pas, mais tu sais, j'ai un de mes meilleurs amis qui est psychologue, psychanalyste. Et avec qui on a, qui est quelqu'un de délicieux, et avec qui, sinon ce serait pas un de mes amis, mais on est vraiment amis dans la vie, hein. Et qui me disait une chose terrible. Il me disait, tu sais Philippe, pour avoir une envie de pouvoir comme ça, il faut automatiquement avoir des problèmes psychologiques. Parce qu'il dit, un homme ou une femme ne peut pas avoir pour rêve de diriger tout le monde. Et comme il est assez compétent, je pense, dans son domaine, je pense qu'il doit certainement avoir raison quelque part. Même si l'ego peut être, on part de la présidence normale, je pense pas qu'Hollande ait un ego.
C'est fini, un héros a dit, c'était terminé.
Il a pas un ego surdimensionné, mais je pense que beaucoup ont un ego surdimensionné. De Gaulle avait un très grand ego, Mitterrand avait un très grand ego, Sarkozy avait un très grand ego, Giscard a un très grand ego.
Et De Gaulle, c'était le plus grand.
Oui.
Ego.
Et surtout, il avait quand même, on va dire, une vie extraordinaire, Première Guerre mondiale, deuxième, enfin, il avait une vie qui avait marqué tout le siècle, quoi.
Marika Elahaki qui Marika Elahaki, voilà, c'est son nom. C'est une future animatrice de Radio Étoile du Cœur, te pose la question, quel est le rêve de Philippe David?
Mon rêve. Personnellement.
Je lis, hein.
Oui. Ah.
Je vais pas interpréter.
Alors, je vais pas tomber dans le truc larmoyant en disant mon rêve serait que tout le monde soit heureux, qu'il y ait plus de faim dans le monde, que parce que je sais de façon malheureusement que c'est un rêve utopique. Bon, je pense que j'aurais le rêve que tous les gens qui ont des enfants, ce serait que mes enfants aient une belle vie et que leur situation et la situation de leur génération s'améliore par rapport à la situation de ma génération. Malheureusement, j'en suis pas franchement convaincu.
Alors je reçois un communiqué de presse, ils sont aussi à l'écoute, les attachés de presse, manifestation de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, samedi 15 septembre 2012, de 14h à 15h, à Place de la Bastille, à Paris, pour dénoncer l'utilisation détournée de la Ritaline et le danger de sa surconsommation chez les jeunes.
Alors, c'est quoi la Ritaline?
Oh, c'est un médoc qu'on leur donne pour, paraît-il, les tranquilliser, les calmer. Non, mais
le problème, dans un pays comme le Japon, les gosses ont de tels rythmes scolaires qu'on aura même des casques qui vibrent quand ils s'endorment en faisant leurs devoirs. On parlait au début de l'entretien, de l'interview, du dopage. Mais ça, c'est du dopage déjà. Et filer des calmants à des gosses qui étudient, moi j'ai fait des études quand même, j'ai jamais pris des trucs pour quoi que ce soit. C'est alors sûr que quand on fait des études très très dures comme la première année de médecine, etc., souvent on abuse un peu de la sur... J'ai pas mal d'amis médecins, on prend beaucoup de café pour bosser très tard, etc. Mais là, prendre des molécules pharmaceutiques, etc., c'est une folie.
Je vais te laisser le soin de conclure.
On va conclure.
Ça n'a pas été trop long?
Oh non, j'ai pas vu le temps passer. Aznavour avait une chanson qui s'appelait « Je n'ai pas vu le temps passer ». C'est un peu le même cas. Non, c'était très sympa. J'étais très contente d'être le premier sur...
Adrienne me demande, tu réponds ou pas, hein, tu fais comme tu veux. Moi, je pose la question. Quel âge avez-vous, Philippe David?
Alors ça, c'est absolument pas indiscret. Je vais répondre sous forme de boutade. J'ai l'âge du département où je suis né. Comme je suis né à Cahors, ben c'est le 46.
Oui, mais tu sais que les Français ne sont pas bons en géographie.
Oh, bon, là, moi, j'ai donné la réponse.
46. Le Cahors.
C'est la ville natale.
Le renouveau du vignoble cadurcien, le Cahors, il y a eu un sacré boulot. Mais enfin, je sens qu'on parlait de tellement de sujets, il faut pas aller trop.
Non, parce que là, si on se met à parler de vin.
Non, mais on va se faire un rendez-vous régulier, si tu veux bien.
Ah, ben, quand je repasse sur Paris, avec grand plaisir.
Une fois par mois ou tous les deux mois.
Ah, ben, quand je passe sur Paris tous les mois à peu près, il n'y a pas de problème.
Bien, alors, je vais reprendre ton livre. Parmi les trois livres écrits par Philippe David, qui, je le rappelle, est journaliste bénévole sur un site qui s'appelle atlantico.fr.
Oui, www.atlantico.fr, exactement.
Tu leur diras qu'ils peuvent éventuellement parler de cette émission qui est en train de se créer, parce que c'est vraiment très expérimental hein, jusqu'à présent. Les web radios, elles sont...
Je leur passerai un coup de fil très rapidement.
Tu leur diras que je parlerai d'eux régulièrement.
Pas de problème. Hein.
Donc je rappelle, De la rupture aux impostures, une très très belle couverture, aux éditions du Bon d'Arguin, je ne me suis pas trompé, c'est à la quatrième de couve. C'est pour vous donner une toute petite idée, parce que vous avez vu, vous avez entendu, on n'a pas beaucoup parlé du livre en définitive. Le livre est un prétexte à la rencontre. C'est comme ça que j'aime la radio, moi. D'être en face d'un homme ou d'une femme, de lui dire, on va parler de votre livre, il est tout content. Et puis en réalité, on parle d'autre chose.
Et c'est bien, c'est éclectique.
Éclectique.
Et j'aime les personnages éclectiques.
Alors n'oubliez pas, tout à l'heure, à partir de 22h, sur IDFM Radio Anguin, l'émission musicale de... Hervé Baumel, voilà mon pote Hervé Baumel, il a une émission musicale extraordinaire qui s'appelle Éclectique. Et puis n'oubliez pas aussi Franck Dumouya. Tu connais pas Franck?
Radio Arverne.
Non, Radio Anguien.
Anguien.
Non, mais il y en a plein, je sais. Jean-Marc Crespo qui... Ah oui, je voulais dire des merci. Ah
ben, je passe chez Jean-Marc Crespo en direct de la foire d'Agen dimanche
vrai,
prochain.
Sur Cool FM 32.
Absolument, je serai dimanche matin en direct de la foire d'Agen. Avec Jean-Marc Crespo.
C'est-à-dire, voilà Facebook. Pour parler, on va boucler la boucle avec Facebook, c'est le cas de le dire. Facebook permet de rencontrer, de retrouver des personnes qu'on avait perdu de vue depuis 25, 30, 40, moi ça a été jusqu'à 55 ans. Ne me demandez pas mon âge, je vous le dirai pas.
Ah, moi je peux pas rencontrer des gens que j'ai connus il y a 55 ans, sachant que j'en ai 46. C'est un peu compliqué.
Non, je pourrais dire que c'est un département entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.
Exactement. Hein? Comme on parlait de vin, là c'est les vins d'Alsace alors.
Les vins d'Alsace. Tu écris « La rupture qui n'a jamais eu lieu, du sang, de la sueur et des larmes, que des raisons de désespérer ». Un livre politique sans parti pris à lire pour se faire une opinion.
Ça résume le bouquin.
Mais est-ce que tu as une opinion, toi?
Oui, bien
c'est
sûr.
C'est con comme question.
Non, bien sûr que j'ai une opinion. Enfin, non, on n'a pas une opinion, on a des opinions. Bien sûr que j'ai des opinions, j'ai une opinion. Mais c'est... Je pense que dans le bouquin, la quatrième de couverture résume parfaitement le bouquin. Que des raisons de désespérer pour les raisons que j'ai expliquées, du sang, de la sueur et des larmes, parce que c'est ce qui nous attend, avec 30 milliards d'impôts en plus, enfin 20 dans un premier temps. Et je crois que ça résume parfaitement le bouquin. Mais je crois que c'est une succession d'opinions, quoi. On peut pas avoir des mêmes opinions partout.
On ne pouvait pas se quitter, enfin à mon humble avis, on ne pouvait pas se quitter sans un autre Toulousain que moi j'adorais.
Claude Nougaro.
Énormément. Claude Nougaro.
Nougaillor.
Je l'avais dit, une intro, trois musiques, trois notes. Voilà, nous allons faire comme dans les mauvaises web radios, c'est-à-dire couper l'interprète avant la fin de la chanson. Une dernière question de Léag et nous allons vraiment nous séparer. Mon cher Philippe, si tu veux remettre ton casque. Oui. Ah, votre invité cautionne la version officielle du 11 septembre, critique l'Iran et de ce fait honore la pensée unique. Bon, passons. Mais le commentaire d'un prétendant à la présidentielle US est conduit, précise que l'enfant d'une femme violée est en fait assimilable à un enfant né hors mariage.
Ah oui, non, mais j'ai pas critiqué l'Iran. Déjà, c'était l'Irak. J'ai parlé de ce qui s'était passé le 11 septembre, qui est dramatique. Hein. Ça, moi, je ne tombe pas dans les thèses abracadabrantesques pour utiliser une formule qui a fait florès il y a quelque temps. Mais c'est vrai que là, les propos du sénateur du Missouri sur les femmes qui tombent enceintes dans un viol en disant que c'est parce que la femme est consentante, ça, c'est totalement abject et indéfendable. Je suis très tolérant, mais là, par contre, là, ça dépasse toutes les limites.
Non, mais c'est ton point de vue, il est
déjà
respectable. Là,
déjà, ce sénateur du Missouri, j'ai une certitude, il n'aura jamais son doctorat en médecine. Ça au moins c'est sûr.
Allez, ta conclusion.
Ben merci. Ça au moins c'est une conclusion. J'avais un peu le trac avant de commencer, mais ça, je pense que ça s'est plutôt pas mal passé. Donc c'était très sympa.
Tu es habitué à la radio, au
j'en micro. J'en ai fait pas mal avant pour mon avant-dernier bouquin. Et ben là il va falloir que je me dérouille parce que comme il est sorti en pleine présidentielle, tout le monde me disait ben là c'est présidentielle, législative et après c'est les vacances. Donc tout le monde m'a dit on repousse, donc j'ai cool FM dans pas longtemps, c'est-à-dire dimanche prochain. Donc, j'irai découvrir pas le 46, là, mais le 47, parce que c'était Agen.
La ville, Agen ou à Stafford?
Agen. Non, mais non, les studios, c'était à Stafford, mais on fait l'émission en direct de la foire.
En direct
d'Agen.
De la foire. Ah oui, c'est
parce
vrai.
Parce que c'est la foire d'Agen.
Jean-Marc m'a prévenu qu'il était à
la foire. Non, parce que le studio était à Stafford.
Tu lui serreras la main, tu lui diras merci, et tu lui diras que j'étais ravi de le retrouver, 27 ans après, quoi. C'est chouette, ça.
Ah oui, c'est bien.
Et en plus, on est radio partenaire avec Jean-Marc.
Merveilleux.
Tu vois?
Génial.
Comme quoi, hein? On est des petits requins, mais avec des dents pas longues. Très très longues. Mais ça viendra. Ça viendra. Merci.
Merci beaucoup.
Merci Philippe David. À bientôt. Au revoir.
Merci.
Faut que je conclue. Oui, je disais à Philippe, faut que je conclue, faut que je dise au revoir. Parce que quand on est bien élevé, on dit au revoir. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs. Vous qui êtes restés devant votre écran pendant presque 2h30. Voilà, c'était la première émission de Radio Étoile du Cœur. Prochaine émission vendredi, ce sera avec Fred et Marika. Vendredi, ce sera de 19h à 21h aussi. Enfin, on vous annoncera ça. Hein. Là, il fallait commencer, c'est fait. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Vous pouvez aller regarder la télévision maintenant.
Vous regardez 3 télévisions, bonsoir.
Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain de 19h à 21h. Avec une jeune femme extraordinaire, extraordinairement belle, extraordinairement douée, extraordinaire. Elle s'appelle Agatha. Mardi prochain, on sera le combien? Non, j'ai rien préparé. Enfin, mardi prochain.
Vous regardez 3 télévisions, bonsoir.